Donc nous démarrons la première séance de cette deuxième journée du séminaire Sans Corée sur le thème de l'innovation technologique au service de l'éducation. Et nous avons l'honneur et le plaisir de commencer cette session sous la présidence de Monsieur l'inspecteur général et doyen de l'inspection du groupe d'enseignement primaire, Philippe Claus, associé à Gérard-Michel Cochard, directeur général, délégué général chargé des TIS au CNAM. Merci, messieurs.
Ce sont des technologies déjà anciennes d'appuyer sur un bouton. Merci, monsieur Benamou. Bonjour à vous toutes et tous. C'est un plaisir et un honneur d'ouvrir cette cinquième session de ce séminaire dont nous avons eu des échos tout à fait positifs quant à la journée d'hier. Alors, vous savez que les tables rondes ont ce défaut d'être très courtes, donc moi, je ne vais pas faire une très longue introduction, simplement pour vous dire que ce sujet, bien sûr, à l'inspection générale, nous intéresse beaucoup, et cette question de l'innovation technologique au service de l'éducation est une des questions fondamentales. Et je souhaiterais, pour ma part, l'inscrire dans un contexte un petit peu plus général, qui est celui du sens que l'innovation technologique porte quant à notre service public d'éducation. Sens tout simplement, si on se réfère à un petit peu d'histoire de l'éducation, nous avions une relation étroite, un modèle social qui était le modèle de l'école de la République avec son tableau noir et sa craie. Et je poserai bien de manière très générale aux participants de la table ronde que nous présenterons très brièvement tout à l'heure, je poserai bien la question du renouvellement de ce modèle. Qu'est-ce que l'innovation technologique apporte au modèle, à l'ancien modèle républicain de l'éducation? Comment il transforme ce modèle? Et donc, en quoi le TBI, en quoi les classes mobiles, en quoi ces technologies font-elles bouger, et dans quel sens, le fonctionnement de notre école, de notre école de la République? Les élèves en sont-ils bien conscients? Les enseignants aussi? Et puis notre système lui-même. Alors bien sûr, les participants de la table ronde auront à côté des réponses à ce type de questions d'autres entrées en matière. Je vous propose de passer la parole à mon voisin, Gérard-Michel Cochard, pour sa part d'introduction, et nous vous présenterons très rapidement l'ordre d'intervention des membres de la table ronde.
Bonjour à tous. Quelques mots très brefs pour ne pas empiéter sur, je dirais, les interventions de mes voisins. Effectivement, dans le domaine de l'éducation, les technologies numériques changent un peu le paysage. C'est-à-dire qu'elles font évoluer beaucoup les modalités d'enseignement au modèle traditionnel, présentiel, que tout le monde connaît, qui est pratiquement unique. On voit se développer aujourd'hui à côté des modèles très divers, très variés, correspondant à différents types de publics, à différents types de besoins aussi. Et donc ça, c'est toute une richesse très intéressante. Je pense que les technologies numériques sont un catalyseur extraordinaire, je dirais, pour développer des activités pédagogiques. Ceci étant, vous êtes ici dans une maison qui accueille un certain nombre d'auditeurs qui travaillent en général, donc ont des besoins effectivement de formation, mais limités par des contraintes de disponibilité. Aujourd'hui, près de la moitié des auditeurs du CNAM travaillent à distance, aussi bien à l'établissement public parisien que dans les centres associés en région. Donc c'est dire qu'effectivement nous mettons ici à profit les technologies numériques pour pouvoir faciliter l'accès à la formation. Alors évidemment, ces technologies n'arrêtent pas de sortir. Les enseignants évidemment doivent s'adapter à tout l'appareillage qui peut leur être proposé. Et moi, la question que je poserai un petit peu à mes voisins, c'est de savoir finalement l'enseignant, quel rôle il va avoir, et surtout comment il va se former à l'utilisation pertinente de toutes ces technologies-là.
Merci. Donc, nous commençons la table ronde. Nous avons, avec mon cher voisin maintenant, le très mauvais rôle, celui de gérer le temps. Donc, messieurs, 10 minutes si possible, pas une de plus, pour que nous puissions avoir aussi un petit échange avec la salle. Et nous commençons par Thierry Couillac, qui est adjoint au directeur de l'anticipation du groupe Orange et qui nous parlera davantage des perspectives de la classe numérique du futur. Monsieur Couillac.
Voilà, donc effectivement, je vais vous parler des perspectives industrielles. Donc, c'est lié à l'éducation numérique vue par les groupes industriels comme Orange. Sachant que dans les grosses sociétés comme la nôtre, on s'intéresse à commencer par le besoin, ce qu'on appelle le besoin utilisateur. Donc, avant de donner une réponse technologique, on se pose la question de quoi ont besoin nos futurs utilisateurs. Et du coup, la première question, c'est que peut apporter le numérique dans l'éducation de façon succincte, puisqu'on passera ensuite aux solutions qu'on peut apporter. Donc, on a identifié quatre types d'apports du numérique dans l'éducation, le premier, qui sont relativement triviaux finalement. C'est pas des grands débats, c'est pas des grandes théories, c'est assez banal en fait. La première chose, c'est tout simplement des outils modernes. En fait, ce que peut apporter le numérique, c'est les mêmes outils que ce que l'on trouve dans la vie quotidienne, que ce que trouvent les salariés dans les entreprises et ce que l'on trouve chez soi. Il en résulte de façon assez immédiate, on va dire, un confort d'utilisation, un plaisir d'utiliser des outils performants et une certaine efficacité. Donc à titre d'exemple, si j'avais dû écrire cette note de 2 pages sur une machine à écrire des années 80, ça aurait été bien plus délicat. Là, je l'ai fait bien volontiers parce que j'ai des outils qui marchent bien. Le deuxième apport, c'est d'avoir les mêmes outils, notamment qu'à la maison, ça c'est très important, parce qu'on va voir que le numérique, d'une façon en général, casse les frontières, il rapproche, on va dire, la maison et l'établissement scolaire, et donc il va faire ce lien dont on entend beaucoup parler entre le monde de l'école et le monde de la maison, sachant que l'enseignement, il se fait potentiellement dans les deux, et comme on l'a vu d'ailleurs hier, de la même façon, les usages perso peuvent aussi se faire à l'école d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est un mélange des deux usages qui va se faire. Le troisième, donc, c'est une fois qu'on a ouvert à la maison, c'est l'ouverture au monde, et ça c'est très important, c'est-à-dire que le numérique, il donne pas potentiellement accès à des communications avec énormément de personnes, évidemment, avec les réseaux sociaux, les chats, etc., mais également en termes de ressources pédagogiques, et ça c'est intéressant notamment pour la mission de l'école, qui est plus, non pas d'apprendre la grammaire ou les maths, mais de devenir un citoyen cultivé, critique, etc., etc. Donc l'ouverture au monde paraît être aujourd'hui quelque chose de très important pour un citoyen du XXIe siècle, et le numérique le permet. Alors, le quatrième apport, on arrive à la pédagogie. Il se trouve qu'après ces 3 premiers avantages, on constate que le numérique, en plus, a des vertus pédagogiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle. notamment, essentiellement liées aux ressources, puisque c'est les ressources qui sont dématérialisées, numérisées, donc sont potentiellement illimitées, enfin, donc quasi illimitées vu d'un utilisateur. Elles sont attractives, potentiellement ludiques, avec du multimédia, donc je parlais du plaisir d'utiliser, là on peut avoir potentiellement un plaisir d'apprendre. Elles sont également très, ce qui est très important, c'est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut donner la bonne ressource au bon élève, et l'étape d'après, c'est d'avoir une ressource qui s'adapte à l'élève. C'est-à-dire qu'on peut, alors je ne suis pas un spécialiste, mais on peut très bien, en fonction de la classe sociale ou du niveau de l'élève, des difficultés, s'adapter. Donc ça, c'est la quatrième bénéfice, sachant qu'elles sont également instantanées, ça c'est très important, c'est-à-dire que potentiellement, pour faire un cours sur l'économie, dans un bouquin, on aura quelque chose qui s'est passé dans les années 90. Là, on pourrait très bien parler de la crise grecque, ou pour parler des sciences, on pourrait avoir un article sur le neutrino qui a dépassé la vitesse de la lumière. Donc voilà, des sujets passionnants, parce que c'est des choses dont on parle dans la vraie vie. Et ce qui est important, c'est qu'on parle à l'école des choses de la vraie vie. Alors, ceci dit, il y a quand même quelques réserves, qui sont que l'usage du numérique doit être raisonné dans le sens où, de toute façon, c'est pas la solution à tout, loin de là, et ça rejoint votre question, que devient le prof dans tout ça? Ben, le prof reste le patron et le seul maître à bord, c'est évident, enfin, c'est tellement évident, quoi. Mais ça vaut le coup de le rappeler. Et notamment, ce qu'il apporte, lui, c'est une relation humaine qui est essentielle, et donc, ce qu'on entend beaucoup dire, c'est que même un cours vidéo, on pourrait beaucoup attendre d'un cours vidéo, donc ce qu'on entend parfois, c'est de dire, le meilleur cours vidéo du monde, finalement, c'est celui-là qu'il faut projeter à tout le monde. Ben, en fait, il semblerait que c'est pas si sûr que ça, parce que ce qui est important également, c'est le prof qui regarde les élèves, qui capte l'inattention, qui capte des choses comme ça. Donc des réserves par rapport à la nécessité de garder de la relation humaine. également par rapport à garder du travail collectif, qui est très important, et surtout dans les petites classes, puisqu'en fait, l'école, c'est là où on apprend la relation sociale entre les enfants et avec le prof. Donc là, on verra qu'avec le PC, potentiellement, il y a un risque de travail trop individuel, donc auquel il faut faire attention. On a également un risque, mais qui va justifier, lui, justement, d'accompagner ce mouvement, qui est un risque que le numérique devienne, finalement, un outil d'élite, d'initié. C'est-à-dire que si on ne faisait rien, donc si on sort de ce colloque en disant, bah, finalement, tout va bien, donc on ne fait rien et on attend que ça se fasse tout seul, ce qui peut se passer, c'est que ce sera ces outils qui sont très performants vont rester utilisés par 10% de la population, ce qui va finalement aggraver les inégalités. Donc l'outil, c'est le numérique, du coup. Donc là, on avait un risque, mais on a aussi une opportunité à l'inverse, qui est d'avoir un enseignement plus juste et plus équitable. Ceci étant dit, dans le préambule, en termes de besoins, quel peut être le rôle des industriels, et donc des gros industriels comme Orange? Alors déjà, l'éducation, c'est évidemment quelque chose qui est très très massif, hein, puisque c'est, donc les chiffres, vous les connaissez, hein, c'est 8 à 10 millions d'élèves selon les niveaux, pas loin d'un million de profs sur le département entier, donc c'est quelque chose de très important. Donc les grandes entreprises ont clairement un rôle à jouer. Mais il faut malgré tout préciser que les acteurs locaux ont également un rôle très important. Et nous, on est convaincus, nous, Orange, on a travaillé dans les ENT, on a travaillé sur les ENR, on est convaincus qu'un groupe à rayonnement national seul n'est pas efficace, il faut un relais local. Ça, c'est un point très important. Et par ailleurs, effectivement, puisqu'on parle de nouvelles technologies, il faut des entreprises qui ont une compétence dans ces nouvelles technologies. Et donc Orange elle a les deux qualités, c'est-à-dire c'est une entreprise de grande taille nationale et c'est une entreprise qui est plutôt à la pointe des nouvelles technos, même si on ne fabrique pas nous-mêmes des technos, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, au moins on sait à peu près les utiliser. Une question également importante, qui ressort un peu de toutes ces discussions, c'est le timing des nouvelles technologies dans l'éducation. Est-ce qu'il faut... Donc aujourd'hui, on dit on a du retard. Enfin, c'est beaucoup disent on a du retard. Donc il faut quand même rappeler deux, trois choses. La première, c'est que dans l'éducation, c'est encore ce qui est plus vrai qu'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas faire de push de techno. Donc les directions marketing de chez nous disent il ne faut pas faire de push de techno, il faut se baser sur le client, les usages, les besoins. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est encore plus vrai dans l'éducation parce que ça reste quand même un besoin très spécifique. Et pour les raisons qu'on a vues, il y a quand même la relation humaine qui est essentielle. Donc pas de push de techno. Deuxième, du coup, si on n'est pas proactif à proposer des choses, à mon sens, mais on va plutôt proposer une palette de solutions. Et que d'ailleurs, nous, en tout cas, Orange, et je pense que les industriels en général, donc ce sera vrai pour les constructeurs et pour les intégrateurs, c'est même pas nous, je pense, qui allons dire tel besoin, telle solution. Je ne le vois pas trop comme ça. C'est plutôt nous, on a des solutions. On est à votre service pour vous aider à les utiliser dans le cadre de vos cours ou à la maison, etc. Et c'est à vous maintenant, vous les élèves et vous les profs, de voir comment vous allez l'utiliser, parce que c'est vous qui savez le mieux comment vous pouvez vous en servir. Sachant qu'il y a également un point assez important, c'est que donc il y a également des notions de rythme de cycle de diffusion. Les nouvelles technologies sont des cycles très courts, qui est de l'ordre de 2 ans. C'est-à-dire qu'on achète un truc, en général 2 ans après, on ne le met pas tout de suite à la poubelle, mais il est déjà obsolète. L'éducation, c'est pas ça, je pense. Alors, je ne connais pas le rythme de l'éducation, donc je ne me suis pas risqué à donner un chiffre en année. Mais je pense que c'est supérieur à 2 ans, et c'est normal parce que c'est quelque chose qui dure. On a parlé de Jules Ferry, donc ça dure. Voilà. La nouvelle techno, c'est un truc, si on veut faire une courbe graphique, il y aurait beaucoup de haut et de bas. L'éducation, c'est le contraire, c'est un truc qui doit être lissé et qui doit durer sur la durée. Du coup, raison de plus pour ne pas tenter, pour ne pas subir la tentation de se raccrocher absolument à la dernière techno. C'est pas parce que la dernière techno est sortie qu'il faut la mettre dans l'éducation. Ce serait un non-sens, parce que sinon, le temps qu'on le fasse, vu que c'est quand même quelque chose de très important, il faudra un certain temps, on serait de toute façon toujours en retard, et je pense qu'on courrait après un truc qui n'a pas de sens, en fait. Donc voilà sur le timing entre la techno et l'éducation. Alors du coup, ce qui résulte de ce préambule, c'est quand même assez important, c'est qu'a priori, il n'y a pas forcément lieu de faire de la recherche et développement pour l'éducation. Parce que alors, le point important, c'est que si on dit effectivement que le numérique, ça ouvre au monde, et donc sur les mêmes outils, déjà, il n'y a pas lieu de faire de R&D éducation, puisque ce sont les mêmes outils, donc on fait de la R&D en général, et on va l'adapter à l'éducation. Et comme après, les cycles ne sont pas les mêmes, il y aura toujours fatalement un petit retard, donc il faudra contrôler, mais ça justifie également le fait qu'il n'y a pas de recherche et développement. Et donc, on aura des outils standards, donc pas d'outils spécifiques, et donc c'est important, on a eu beaucoup la réflexion sur la tablette, hein, évidemment, et j'ai encore discuté il y a 2 semaines avec quelqu'un qui veut faire une tablette éducation, je lui dis, personnellement, je ne suis pas super convaincu de l'intérêt. Donc, des outils génériques avec des contenus spécifiques. Parce que dans l'éducation, ce qui est spécifique, c'est vraiment la ressource, hein, c'est le savoir. Donc, ça se matérialise par du contenu et c'est ça qui est spécifique. Mais les outils, a priori, n'ont pas lieu d'être très, très spécifiques. Donc voilà pour ce long préambule qui me laisse encore quelques minutes, j'espère, ou pas, ouais.
Une minute.
Oula. Une. Alors, du coup, maintenant, je voulais vous faire un petit inventaire de toutes les technos dont on parle. Alors, très rapidement, je vais juste me focaliser sur les plus, celles dont on n'a pas trop parlé. Enfin, juste très rapidement, donc, le PC, c'est ce qu'on a connu. On a vu qu'il y avait des réserves d'utilisation. On en a parlé, quelqu'un en a parlé pas mal hier avec la complexité de l'interface. Par ailleurs, il y a des gros problèmes de maintenance, enfin, des besoins de maintenance qui aujourd'hui ne sont pas assurés par les acteurs industriels. Donc, moi, ce que j'entends dire, c'est que quand un truc tombe en panne, il n'y a pas de support, pas de dépannage, et donc ça passe assez vite au placard. Donc là, il y a un rôle clairement à jouer. Des industriels, Orange ou un autre. La tablette, alors ce qui peut remplacer, prendre la suite du PC, c'est la tablette qui présente un certain nombre d'avantages que je ne vais pas rappeler parce que c'est assez connu. Sachant que le rôle des industriels et notamment des opérateurs comme Orange ou SFR sur ce genre de terminaux, c'est clairement tout l'enrobage qui va autour pour en faire un outil pédagogique dans le cadre pour l'éducation, c'est-à-dire mettre une housse de protection de façon assez basique, mettre une interface, un contrôle parental, mettre un filtrage pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi pendant les cours, éventuellement faire un lien avec les ENT pour que la home screen soit cohérente par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, on réfléchit. Côté Orange et côté SFR, réfléchissent également, je le sais, puisqu'on se demande s'il n'y a pas des choses à faire à plusieurs opérateurs sur ce genre de sujet. Donc comme je vois Albert-Claude qui fait signe de raccourcir, je regarde s'il y a quelque chose d'autre. Alors juste alors, du coup, le dernier point en termes de technologie, ça me paraît quand même très important, c'est le smartphone, donc on en a très peu parlé en fait du mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les utilisateurs qui font les évolutions. C'est pas ni les industriels, c'est personne d'autre que les utilisateurs. Aujourd'hui, les jeunes décident. C'est le smartphone. Aujourd'hui, les jeunes utilisent le smartphone. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais ça pourrait aller assez loin. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est qu'en termes d'usage, il y a finalement peu. On sait faire beaucoup de choses sur un smartphone qu'on fait également sur tablette. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est les trucs qui prennent de la place, du genre manuel numérique, un peu numérisé, pas trop adapté. Donc, ça ouvre énormément de perspectives, et d'autant plus de perspectives que tous les jeunes ont soit un smartphone, soit ils en veulent un. Et puis les parents sont toujours OK pour financer un smartphone. Et que du coup, si on souhaitait utiliser le smartphone en soutien scolaire, je ne sais pas quel usage encore une fois, et là c'est pas moi de me dire, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire assez très facilement et très rapidement.
Donc, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, avec une perspective très intéressante, c'est celle du croisement des temporalités entre celui qui est ce rythme accéléré et qui va peut-être encore s'accélérer dès 2 ans, et puis le nôtre dans notre maison qui est plutôt décennal, voire bien au-delà. Alors pour approfondir et rentrer un peu dans le cœur de la problématique, Patrice Hull, qui... Société e-éducation, qui va nous parler davantage de la recherche, à l'intérieur d'une entreprise et à propos du TNI.
Bonjour. Bon, on n'a pas la chance d'être aussi connu qu'Orange, donc je vais très rapidement présenter l'instruction. Donc, premièrement, on a été invité ici pour, en tant que fabricant de TNI, donc de tableaux numériques interactifs. Il y a énormément de technologies qui se développent actuellement, mais c'est vrai que le tableau numérique interactif, c'est un produit qui est arrivé dans les écoles, dans les établissements, avec un assez bon retour d'expérience. Alors juste pour un petit peu, alors je vais très rapidement. Instruction, c'est une société internationale qui est présente dans 90 pays. On est aussi présent en Afrique avec des partenaires. On a énormément d'utilisateurs de tableaux interactifs, de tablettes numériques, de systèmes de réponse, surtout aux États-Unis. Et donc, on gère un réseau de partenaires, alors que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires revendeurs, distributeurs dans différents pays. Alors, on est Instruction EMEA, dont je suis le responsable, est basé à Paris. Et on gère la zone EMEA, donc, dont je suis responsable, qui comprend l'Europe, l'Afrique, le Middle East, l'Inde et les pays ex-URSS. Donc un grand territoire. Alors pour revenir un peu sur Terre, je vais parler un peu du passé. J'ai commencé en France avec un tableau interactif dans mon coffre. Et j'ai fait le tour de France pour développer cette technologie il y a à peu près 8-9 ans. Et j'ai visité un certain nombre de sites, des CDDP, des CRDP. Et je crois que la première année, on a dû livrer, bon, c'était pas plus de 5 tableaux interactifs. J'ai d'ailleurs gardé des relations personnelles, amicales, avec chaque enseignant qui utilise ces tableaux. C'est pour dire comment le marché évolue. Il y a 8-9 ans, on était vraiment dans quelque chose de particulier. Pour donner une anecdote, le mois dernier en France, on a livré 500 tableaux numériques interactifs en France. en grande partie sur des marchés de collectivités tels que l'Île-de-France, mais on a livré à peu près 6000 tableaux sur le territoire complet EMEA. Donc c'est pour dire que le marché évolue vraiment. Alors on est présent en Afrique avec des partenaires, je vais aller assez vite pour tenir les 10 minutes, et on fabrique, on développe des solutions tableaux interactifs, tactiles maintenant, ou stylos, des ardoises interactives, des systèmes de réponse, pour placer le contexte. Alors, les nouvelles technologies pour l'éducation, le développement de nouvelles solutions, quels éléments, en tant que fabricant, on prend en compte? Alors, premièrement, c'est la multitude des solutions. Avec ce slide, je voulais montrer que l'offre, elle est quand même assez complexe. C'est assez difficile de dire ce qui fonctionne, ce qui ne va pas fonctionner. Donc, il faut arriver à choisir là-dedans. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des éléments de convergence. Et la convergence, elle se fait, moi, je pense, par exemple, par rapport à des solutions comme le logiciel Sankore, qui va permettre de faire converger des contenus, de permettre de les mettre sur un format qui sera utilisable par plusieurs matériels. C'est aussi intéressant dans le sens où un fabricant de TNI pourrait se dire « Oui, nous avons des logiciels pour utiliser TNI, des logiciels de contenu. Comment peut-on se placer par rapport à un logiciel comme Sankore ?» Nous avons décidé, je pense, la façon la plus intelligente, c'est d'accompagner, c'est vraiment un outil intéressant, les contenus qui seront générés avec le logiciel Sankore seront utilisables sur nos matériels, sur nos tableaux interactifs. Nos autres équipements sont compatibles avec ce logiciel. Donc on se place vraiment de ce point de vue-là. On a aussi un logiciel, qui est d'ailleurs offert aux enseignants en usage, mais on ne veut pas mettre les technologies en compétition. De la même façon, sur ce slide, on peut voir des projecteurs interactifs. Bon, il est connu que le projecteur interactif a pris une grande part du marché du tableau numérique interactif. Nous, plutôt que de combattre, on s'est associé. On s'est associé, par exemple, avec Epson, et on fournit les accessoires qui sont livrés avec les projecteurs interactifs de Epson. Voilà pour les idées un petit peu générales. Et bien sûr, tout ça, c'est important, et un élément central aussi, qui est bien sûr l'enseignant et l'élève, mais un élément central logiciel, c'est le LMS, le Learning Management System et l'ENT. C'est un point nouveau. Les solutions qu'on dessine, il faut qu'elles sachent communiquer avec l'ENT, avec le Learning Management System. Sur le prochain slide, avant, quand on développait des produits interactifs, il y a, on va dire, 8-9 ans, on s'intéressait à ce qui se passe pendant la classe. C'était, j'ai mon tableau interactif pendant la classe, qu'est-ce que je fais avec? Aujourd'hui, quand on développe des solutions, on est vraiment obligé de penser à qu'est-ce qu'on peut offrir comme solution avant la classe, pendant la classe et après la classe. Et on offre ces solutions à qui? Alors on le voit, avant la classe, il faut offrir des solutions à l'élève, au professeur, à l'administration aussi, aux parents. Pendant la classe, on a surtout l'élève et le professeur. Et après la classe, de la même façon, l'élève, le professeur, l'administration et les parents. Alors, si on détaille un petit peu ces éléments, donc pour les élèves, on peut imaginer différents services, être capable de rechercher des compléments d'information, des contenus interactifs. Alors le e-book, une chose intéressante... J'ai aidé à développer le développement des tableaux numériques interactifs en France depuis qu'on présente ce genre de solutions. Et on a des solutions qui s'intègrent sur des tablettes, des solutions connectées, globalement des systèmes de réponse avec la possibilité d'envoyer des notes, l'élève communique avec l'enseignant dans la classe. Depuis que je présente ce genre de solutions, j'ai l'impression de revivre le même enthousiasme. On retrouve les mêmes yeux écarquillés qu'on avait quand on a présenté les premiers TNI. On est vraiment, à mon avis, mon humble avis, en face d'une vraie révolution sur ce genre de produits. Les smartphones aussi, il y a vraiment des choses qui vont arriver sur le marché, des possibilités offertes. Donc avec ce genre de produits. Alors un élément aussi important de ce slide, c'est quand on parle de nouvelles technologies. On a dit quand, pour qui, avec qui. C'est aussi un élément important. Avec qui, premièrement, avec vous. Puisqu'on ne peut pas inventer des produits, on écoute, on parle ensemble, on apprend. Il y a plusieurs personnes que je connais dans la salle avec qui on a des discussions. Donc qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui pourrait être un plus pour l'école? Avec qui aussi? Avec des partenaires comme Sankore. Avec qui aussi? Avec des industriels. On travaille dans différents pays, par exemple avec des fournisseurs de téléphonie. On équipe des universités en Afrique du Sud avec des téléphones smartphones. Qui sont connectés en 3G, qui permettent aux élèves de répondre pendant la classe. Donc c'est vraiment un élément important. Aussi avec qui on doit aussi utiliser on sent les technologies qui sont en train de prendre dans l'éducation. Donc on essaye aussi d'accompagner ce mouvement et d'offrir des solutions un petit peu avec l'expérience qu'on a de quelques années sur les TNI qui sont globalement intéressantes à utiliser sur ce genre de support. Alors on part pendant la classe, alors c'est important, hein, il faut qu'on sache offrir une interactivité enseignant-élève, élève-élève, l'utilisation de technologies déjà présentes dans le quotidien des élèves, l'utilisation d'outils modernes, interactifs. Alors il faut que ça apporte, à mon avis, une vraie plus-value. Pas juste se substituer, ça peut se substituer, mais c'est quand même, un outil est intéressant quand il apporte de la plus-value. Pour les professeurs, je pense que l'élément super important, c'est la simplicité de mise en œuvre et d'utilisation dans la classe. Le professeur est là pour faire son cours. J'ai une anecdote toujours, personne n'a lu la documentation d'un four à micro-ondes, et tout le monde utilise un four à micro-ondes, on n'a pas besoin d'être formé sur ça. Je pense que les bons outils n'ont pas besoin d'une grosse formation, les bons outils doivent être utilisables, le professeur doit y voir un sens, et comme il y voit un sens, il l'utilisera. C'est vraiment, je pense, les phases de développement, ce qu'il faut arriver à trouver. Alors bien sûr, retour immédiat d'information, quel enseignant ne voudrait pas savoir si les élèves autour de lui ont compris la leçon en temps réel. Alors, voilà, participation de tous les élèves, suivi de le précis de leur compréhension et progrès, tout ça connecté par exemple à l'ENT avec les informations envoyées en temps réel. Alors, après la classe, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, les élèves peuvent visualiser leurs exercices qu'ils ont fait en classe, les parents peuvent visualiser aussi le travail de l'élève, l'administration éventuellement... C'est un débat, peut faire des analyses croisées des résultats, avoir accès aux données, la mise en évidence de facteurs de réussite, et les professeurs ont des assistances à la correction. Le tout, c'est d'arriver à simplifier leur vie. C'est-à-dire que, bon, je ne l'ai pas dit au départ, mais je pense avoir une quadruple expérience avec les TIS dans l'éducation nationale. Alors la première en tant qu'élève, hein, il y a déjà quelques années. La deuxième en tant que père, d'une fille de 13 ans qui est dans l'éducation nationale actuellement. La troisième en tant que mari, puisque je suis marié à une enseignante, et la quatrième en tant que fournisseur. Donc c'est ce qui nous permet, enfin je pense, me permet d'avoir une vue un peu globale des besoins, des réalités de l'éducation nationale. Et bien sûr, dans nos développements, on en tient compte. Alors là, très rapidement, c'est pour un peu parler des solutions sur lesquelles on travaille actuellement. Bon, une minute, d'accord, très rapidement. Bon, globalement, on développe des solutions qui sont, alors c'est un produit très anglo-saxon, hein, des systèmes de réponse, ça a quand même un certain sens. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le système de réponse sur une tablette et on est capable d'apporter de la plus-value pédagogique avec, au lieu de répondre sur des questions A, B, C, D, on va être capable de prendre des notes. L'élève va envoyer des notes à l'enseignant, l'enseignant va vraiment avoir le travail, l'essai de l'enseignant. Et tout ça, relié en direct sur l'ENT ou à travers le cloud, avec les informations qui peuvent être envoyées en temps réel, directement à l'académie, au ministère. On est sur une expérimentation actuellement sur l'ASSR, par exemple dans le second degré, où bon, on sera présent sur Educatis avec ce genre de solution sur le stand de la sécurité routière. Donc voilà le type de solution vraiment dont on tient compte de pour qui, quand et avec qui. Voilà ce qu'on développe actuellement. Alors je vais aller très rapidement, comme il me reste juste une minute, par rapport aux discussions qu'il y a eu hier, juste quelques éléments de débat. Moi je pense globalement qu'un outil TIS ou pas ne s'utilise que s'il a un sens. Il peut être un outil de substitution, mais pas seulement. On ne peut pas reprocher à un enseignant de ne pas utiliser les TIS s'il n'est pas équipé, parce que hier il y a eu des débats à ce sujet-là. J'ai l'expérience de mon épouse, elle n'est pas équipée. Elle n'a pas d'ordinateur dans sa classe, sa voisine de classe n'a pas d'ordinateur, donc on ne peut pas critiquer l'enseignant. Donnons-lui déjà des TIS, des outils pour commencer à se poser la question s'ils sont utilisés ou pas. Donc, et c'est quand même le cas général actuellement. Il faudrait étudier ceux qui sont équipés et ce qu'ils les utilisent. Mais globalement, la plupart des enseignants, à mon sens aujourd'hui, ceux que je connais, n'ont pas vraiment d'équipement. Ce qui a été fait est de bonne taille. Il y a eu des gros investissements de fait, mais ça représente un petit pourcentage du nombre d'enseignants équipés. Les solutions numériques pour la classe ne sont que des outils, ne se substituent pas à l'enseignant. En ce qui concerne les TIS, ça c'est mon avis, j'ai dû faire des formations dans le cadre du développement des TNI dans le passé. Je pense que l'enseignant, il doit accepter qu'il n'est pas obligatoirement l'expert dans la classe pour les TIS. C'est d'ailleurs impossible par rapport aux élèves d'aujourd'hui. Mais il doit être l'expert de l'usage pédagogique de ces TIS. Là, ça doit être et aussi de la matière qu'il enseigne. Mais sur les TIS en eux-mêmes, sur l'utilisation des technologies, je pense que c'est assez évident que nos enfants auront des plus grandes capacités que nous. Et il ne faut pas essayer de combattre ça, il ne faut pas essayer d'être meilleur qu'eux, on n'y arrivera pas. Il faut l'accepter, l'utiliser. Mais l'usage pédagogique reste la chose importante pour l'enseignant. Voilà, et dernier, la phrase, un outil intéressant et simple s'utilise, pas besoin de documentation, ça c'est fondamental. Alors c'est très dur à faire, hein, c'est très facile à dire, c'est très dur à faire. Mais je pense que si en tant que fabricant, on essaye d'intégrer c'est cette phrase, un outil intéressant et simple s'utilise, pas besoin d'utiliser de documentation. Je pense qu'on ira vers des outils qui s'utiliseront en classe. Ouais, j'ai à peu près fini. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et merci de ce constat important pour l'avenir, un outil d'utilisation simple pour permettre effectivement à l'enseignant de se dégager de cette lecture de notices ou des problèmes de technologie pure pour repenser pédagogie grâce aux outils. Et il anime le professeur du futur.
L'élève, c'est l'élève du futur. Est-ce qu'il parle, notre... Comment tu l'appelles ?
Nao.
Nao.
Bonjour, je suis Nao, l'assistant de François Ledoux de la société Intel. En l'attendant, voulez-vous que je raconte qui je suis ?
Oui.
Il t'a entendu ?
Je suis un robot humanoïde. Mes concepteurs travaillent en France dans la société Aldébaran. J'ai commencé ma carrière en 2008 et aujourd'hui plus de 150 professeurs m'accueillent dans leur salle de classe en France. En seconde SI et CIT, pour découvrir le fonctionnement des capteurs et des actionneurs. En bac STI2D et SSI pour étudier la mécanique, l'électronique et l'informatique. En classe prépa et à l'université dans le cadre de TP et de projets étudiants. En dehors de la salle de classe, je peux me promener.
Bravo.
Et me rendre à la RoboCup. Et après la pause, je fais danser tout le monde. À bientôt.
Wonderful. Je vous disais hier que le futur, c'est déjà demain. C'est aujourd'hui. Voilà, on y est. On y est. Peut-être. Est-ce que c'est un futur que nous souhaitons, cher ami ?
Merci, Nao. Je l'ai bien présenté, Alain, comme étant un assistant et certainement pas le futur comme il a été évoqué. Voilà. Donc, après cette petite introduction avec Nao, je vous propose de faire rapidement un tour sur ce qu'un industriel comme Intel fait dans le domaine de l'éducation. Alors, je vais démarrer très rapidement sur la partie très industrielle de notre activité, mais qui a son sens, et on vient d'en avoir un exemple avec Nao. Avec les progrès technologiques successifs qu'Intel a apportés sur les transistors et le silicium, la loi de Moore, qui a été plus ou moins évoquée avec le rythme des 2 ans, eh bien, continue à rester d'actualité. Et de manière générale, Intel développe une vision en R&D qui est de l'ordre de 10 ans. Et cette année, par exemple, on fête les 40 ans du microprocesseur, mais c'est aussi l'année où nous avons inventé un transistor qui s'appelle le transistor Trigate et qui est gravé en 22 nanomètres. Alors, au-delà de la performance technologique, ça permet notamment de réduire des problèmes de consommation et de courant de fuite, de chaleur, un tas d'avantages techniques qui vont permettre de travailler dans un nombre important de domaines que je vais illustrer sur cette slide. Donc vous avez une vue extrêmement rapprochée en haut à gauche de ce que peut donner le transistor Trigate qu'on va à terme retrouver sur l'ensemble des microprocesseurs qu'Intel fabrique. Et ça, dans une logique de ce que l'on appelle en interne le compute continuum, c'est-à-dire de pouvoir d'un serveur aller jusqu'au smartphone, jusqu'aux tablettes et jusqu'aux ultrabooks, ces ordinateurs extrêmement fins, légers et qui consomment très peu d'électricité. On va pouvoir dans de nombreux domaines industriels et technologiques et sociétaux, retrouver l'ensemble de ces outils. Et entre autres, dans l'éducation, où un avantage comme celui de la connexion et de la longue autonomie laisse envisager des usages qui restent bien entendu à imaginer. Nous apportons ces technologies, nous travaillons avec des fabricants pour les intégrer dans ces machines. Ensuite, l'imagination, eh bien, elle est sans limite, elle est du côté de l'éducation. Je vais vous donner un autre exemple qui va nous emmener à Amiens et pour vous montrer ce que la technologie peut permettre de faire. Je pars d'une photocopie simple que je présente devant la webcam de mon ordinateur. Et bien sûr, ce sont des ressources qui sont intégrées à la... Alors d'une main, ce n'est pas facile, mais qui sont intégrées dans la machine. Je peux même aller me promener de nuit et voir ce que beaucoup de villes aujourd'hui font, c'est-à-dire des illuminations de la façade. À quoi ça sert ? Avant le principe, parce que le à quoi ça sert, là je vous ai donné un exemple de la cathédrale d'Amiens, on peut très bien l'utiliser sur des questions en classe, sur des questions d'histoire, sur des questions de science, sur des questions de technologie, sur tout un tas de questions. La limite, là encore, c'est l'imagination et la création des contenus. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert à illustrer de manière concrète et d'aller dans des endroits, découvrir la cathédrale d'Amiens de cette façon-là. C'est quand même assez difficile quand on est une classe, que ce soit en France ou dans le monde. Voilà. Donc, c'est quelques exemples de technologies qui peuvent être mises au service de l'éducation. Il reste la question essentielle de la pédagogie qui a déjà été largement évoquée hier et ce matin. Et comment les acteurs de la communauté éducative au sens large intègrent ces technologies dans leur quotidien. Dans leur quotidien de professeurs, ça a été évoqué tout à l'heure, de parents, d'éducateurs et de personnes qui accompagnent les élèves. C'est avec cet état d'esprit qu'Intel propose sa collaboration à la question des politiques du changement en matière d'éducation, hein, et qui est illustrée par le cercle que vous voyez sur la diapo actuellement. Intel a travaillé à la rédaction d'une note de politique générale qui a pour objectif d'aider les responsables politiques à articuler une vision, à élaborer un plan cadre et à mettre en œuvre des actions que je vais présenter juste après, à les évaluer, à les adapter en fonction de cette vision de départ. Document qui est à votre disposition, hein, bien sûr, présente un processus d'élaboration des politiques, identifie les problématiques clés qui doivent être souvent abordées dans le cadre de cette démarche. Alors, tout ceci, l'objectif de tout cela, eh bien, est en quelque sorte résumé sur cette slide, et la question est comment favoriser ces évolutions pour avoir de meilleurs usages des TIC dans l'éducation et à terme favoriser l'emploi et l'employabilité. Alors, dans les actions que nous conduisons, cela passe par deux types deux grandes familles d'actions, l'une dans l'éducation, l'autre dans le soutien à l'entrepreneuriat. Alors, dans l'éducation, ça s'est matérialisé, il y a déjà de ça de nombreuses années, avec le ministère de l'Éducation nationale, sur la mise en œuvre d'un environnement numérique de formation, performance. Mais cet environnement numérique a connu des déclinaisons dans bien d'autres secteurs. C'est aussi le soutien à tout ce qui est sciences et technologies et mathématiques. L'an passé, deux équipes françaises ont participé au prix international scientifique ICEF. Elles sont revenues primées d'ailleurs. Hein, c'est donc ce type de soutien que nous mettons en place. Au-delà de cela, il y a dans la partie entrepreneuriat différents programmes que je ne vais pas détaillées ici, mais qui sont aussi bien au niveau de l'enseignement du collège, du lycée, mais également, et c'était la semaine dernière la finale, un concours international de business plan en collaboration avec l'université de Berkeley aux États-Unis. Tout cela, toutes ces actions sont systématiquement conduites en partenariat avec des acteurs gouvernementaux, des associations, des ONG, des acteurs multilatéraux, l'UNESCO notamment. Mais je pense qu'un seul mot résume ce que nous conduisons dans le monde, puisque nous sommes dans une soixantaine de pays, enfin nous travaillons dans une soixantaine de pays, c'est la collaboration. Alors la collaboration, je me suis amusé, j'ai pris cette image, une minute, ça va être parfait. J'ai pris cette image dans une des vidéos et pour vous, que nous avons tournée pour vous montrer qu'on n'est pas, non plus exempt de critiques. Ce pauvre élève est en train de se déhancher pour essayer d'apercevoir un professeur qui reste, somme toute, assez loin de la collaboration. Je préfère celle-ci, mais simplement pour dire que c'est pas, là aussi, la collaboration n'a pas été inventée ou importée ou introduite par les technologies de l'information et de la communication. Et elles permettent, par contre, de développer de nouvelles formes. Je passe cette slide que j'ai déjà évoquée tout à l'heure avec l'environnement numérique de formation performance qui a donné des déclinaisons au CEFAC sur l'association des employés à domicile, le groupe IGS et l'Académie de Strasbourg également utilise la même base open source Moodle avec les développements que nous avons faits. Voilà, un rapide retour d'horizon sur ce qu'un acteur industriel conduit comme réflexion et comme action dans un domaine qu'il a identifié comme majeur depuis plus de 20 ans. Au travers de programmes qu'Intel a déployés dans plus de 60 pays, en collaboration donc toujours avec les États, eh bien ce sont à peu près 10 millions d'enseignants qui ont été formés ces 10 dernières années. Voilà. En conclusion, les technologies, oui, mais avec un accompagnement des usages, avec de la formation professionnelle et un travail qui doit être conduit collectivement et en collaboration.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Après un moment d'inquiétude sur l'élève du futur que nous oublierons rapidement, des perspectives beaucoup, beaucoup plus humaines. Monsieur Verdier, je vous remercie de nous présenter quelques perspectives liées à la troisième révolution industrielle, toujours pour notre sujet, l'éducation numérique. Merci.
Bonjour. On m'a dit que debout, c'est mieux. Voilà, je m'appelle Henri Verdier, je connais beaucoup de gens dans la salle et sur la tribune puisque j'ai passé 10 ans de ma vie à faire des logiciels pour l'éducation nationale, travaillant notamment longtemps avec Jean Charpak sur la main à la pâte. Aujourd'hui, je dirige une autre start-up internet qui travaille dans un tout autre domaine, on fait des mathématiques sur les grandes masses de données, mais j'ai la chance aussi d'avoir été élu président d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui rassemble 700 PME, 25 grands groupes et 55 établissements publics d'enseignement et de recherche au service du développement de l'écosystème en Ile-de-France, de la création et des contenus numériques, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine d'acteurs de l'éducation numérique, mais aussi des gens qui fabriquent ce petit robot, par exemple, des gens qui font des jeux vidéo, des effets spéciaux pour le cinéma, du logiciel libre. Enfin, c'est plutôt le monde des créateurs au sens large. Et on m'a demandé en 10 minutes, il m'en reste donc 9, de réfléchir avec vous sur la transformation industrielle que nous vivons et les conséquences que ça peut avoir pour en matière d'éducation. Donc bien sûr, je vais être très lapidaire. Je vais d'abord partager avec vous 3 convictions que certains de mes amis connaissent, mais que je crois qu'il est important de rappeler ici. La première, elle est simple. La révolution numérique, ce n'est pas une révolution technologique. Et le numérique, ce n'est pas un secteur industriel. Comme pendant la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, nous vivons une transformation économique et sociale globale. L'histoire ayant documenté amplement la révolution industrielle, c'est plus facile de s'y référer. La révolution industrielle, ce n'est pas seulement le charbon et l'acier, c'est aussi à cause du charbon et de l'acier l'invention de nouvelles formes d'organisation du travail, c'est l'invention de nouvelles formes d'organisation des entreprises, c'est à cette époque-là qu'on invente les sociétés anonymes, les SCOP, les coopératives, etc. C'est aussi l'urbanisme haussmannien, c'est aussi une manière d'organiser le bloc opératoire, et tout se réorganise, c'est des phases de synthèse créative où on prend des milliers de technologies disponibles pour inventer une nouvelle organisation de la société. Et nous vivons la même chose, et si j'ai le temps, je vous dirai deux, trois mots de cette nouvelle révolution industrielle. Deuxièmement, les systèmes éducatifs, ça je l'ai appris sur le tas, puisque j'ai passé 10 ans de ma vie à travailler avec vous, c'est pas seulement de la pédagogie. C'est d'abord, peut-être hélas, mais c'est d'abord des choix d'organisation, d'industrialisation massive de l'éducation. Et c'est des choix qui sont faits chaque fois à une époque, en fonction des aspirations de l'époque, des technologies disponibles et des techniques de pouvoir et d'organisation disponibles. C'est pas du tout indifférent que Guizot, en 1833, décide de normaliser, entre autres, l'enseignement de l'orthographe, décide que la France entière doit savoir écrire de la même manière, au moment où lui Hachette, son élève, à Normale Sup, lance les éditions Hachette, et il fallait être capable d'imprimer des manuels d'orthographe qui soient les mêmes pour toute la France, et il fallait aussi un réseau d'écoles normales d'instituteurs pour pouvoir rêver que tout le monde écrive pareil sur un même territoire. C'est pas indifférent non plus que Ferry travaille au moment de la révolution industrielle et qu'il ait en tête des modèles d'industrialisation un peu taylorisés. Je pense qu'on aurait demandé 300 ans avant à la Sorbonne s'il était normal qu'enseigner devienne découper les élèves en groupes de 30, faire une matière pour chaque enseignant, faire des cours qui durent 55 minutes chacun, etc. Je pense pas que les gens auraient trouvé ça normal. Et donc on a des modèles à disposition et on les active. Et aujourd'hui, c'est peut-être même, alors on verra ce que diront les historiens, c'est peut-être même pas indifférent qu'à la fin d'une séquence intense d'un capitalisme de communication de masse et de marketing de masse, on décide aussi de massifier l'éducation et qu'on se retrouve avec un certain nombre de problèmes liés à cette massification. Et donc ma troisième conviction, c'est que toutes les approches qui se limiteraient à penser la numérisation de l'éducation ou l'apport du numérique à l'éducation en prenant chaque fois un petit bout de la lorgnette, que ce soit les outils, la formation des enseignants, ou ce que vous voulez, ne peuvent pas vraiment changer les choses, si ce n'est à la marge. Alors, parfois, la marge est importante. Si un élève est un peu plus motivé, un peu plus intéressé, c'est pas rien. Mais on ne changera pas substantiellement l'éducation si on se contente de se dire, faut-il plus d'outils, plus d'équipements, plus d'infra, etc. D'autant plus que notre système éducatif n'est pas consternant et que donc il n'a pas un besoin vital de changer à toute allure et que voilà, on n'a pas forcément envie non plus d'innover. Alors je me permets de vous dire d'ailleurs que ce que j'avais vu pendant mes 10 ans avec l'éducation nationale, il y a bien des grands groupes industriels qui innovent moins bien que vous et moins vite que vous et avec beaucoup plus d'inquiétude. Alors du coup, et dans les 5 minutes qui restent, je voudrais partager avec vous. Alors, oui, alors par exemple, le fait que, et on l'avait souvent dit, les innovations de techno, les innovations un peu petit bout de la lorgnette ne changent pas les choses substantiellement, fait qu'effectivement aujourd'hui on commence à voir un certain nombre de résultats ou d'évaluations qui disent ben voilà, on a équipé tous les étudiants d'un état américain et ça n'a pas changé les choses tant que ça, ben oui c'est pas étonnant, parce que si vous avez la même organisation, les mêmes objectifs, les mêmes méthodes et que vous avez juste donné un ordinateur à tous les collégiens, ça change rien. Et si vous aviez mis un ordinateur dans une usine tayloriste, ça n'aurait rien changé non plus. Si vous aviez gardé l'organisation du travail, la hiérarchie, les manières de vérifier le travail, etc. J'ai même été amusé, et vous pouvez retrouver ça sur Internet, de voir que les écoles parmi les plus prestigieuses et les plus chères aux États-Unis, le réseau des Waldorf Schools, et notamment celles où tous les cadres supérieurs de la Silicon Valley mettent leurs enfants, sont des écoles sans écran, et où on fait beaucoup de hands-on, de main à la pâte locale, où on fait beaucoup d'activités physiques, et où on considère, et donc les enfants des cadres de Google, de Facebook, etc., on considère qu'il faut aussi un moment de respiration et de silence et de construction de soi avant de se plonger dans un univers hautement technologique. Ce n'est pas ce que je recommande, mais je note que ça existe, c'est un point à benchmarker. Alors juste deux questions. Est-ce que je peux partager avec vous quelques aspects de cette nouvelle ère industrielle dans laquelle nous sommes entrés? Et est-ce qu'on peut se poser quelques questions sur l'efficacité du numérique pour l'éducation? Alors cette nouvelle ère industrielle, en trois mots, d'abord, oui, c'est comme la révolution industrielle, je l'ai dit deux ou trois fois, au risque d'être caricatural, mais ce que je vais vous dire est documenté, et je pourrais vous en donner plus. On a eu un premier capitalisme pour qui le problème a été la production. Il fallait produire, et ça a été un capitalisme de machines, d'ingénieurs, où on, globalement, pour faire court et caricatural, on captait la force de travail du prolétariat dans des machines où la propriété intellectuelle était très importante et qui nous a permis de produire jusqu'à à peu près la Deuxième Guerre mondiale. On a eu un moment où ce capitalisme s'est essoufflé et où la clé de la bataille économique est devenue la captation du désir, le marketing de masse, la communication de masse, et où finalement le maître du jeu dans les entreprises a été le marketing, et qui était d'ailleurs consubstantiel des médias de masse. Enfin, donc, globalement, jusque maintenant. Mais ce modèle s'essouffle aussi. Nous sommes entrés dans un monde où, d'abord, les gens... où, notamment grâce au numérique, la grande bataille, si vous regardez la stratégie des géants du numérique, qui sont souvent américains, c'est de susciter et de capter la créativité de l'extérieur. C'est la valeur de Facebook, la valeur de Google, la valeur de tous ces gens-là, d'Apple, etc. C'est ce que nous faisons. Mais c'est avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de technologie, il y a une captation de cette créativité. Dans ce nouveau capitalisme, et donc je vais être très très lapidaire, d'abord l'innovation est permanente. Quelqu'un a dit que les cycles d'innovation sont raccourcis et sont devenus 2 ans. Je pense qu'il faut même aller plus loin. Et il y a une grosse différence entre des cycles qui se raccourcissent ou une innovation qui devient un continuum d'innovation. Quand vous essayez de faire du vélo, vous pouvez essayer d'apprendre à tenir debout et puis ensuite vous avancerez, ça ne marchera jamais. Vous pouvez vous dire finalement je vais tomber tout le temps, puisque le mouvement du vélo est une chute. Et dans ce cas-là, vous savez faire du vélo et ça marche. Et je vois bien ça dans beaucoup de grandes organisations. C'est très très difficile de se dire comment est-ce que je m'organise pour un monde où c'est l'impermanence qui est la permanence, quoi. Et ça veut dire qu'il faut changer d'état d'esprit, qu'il faut des stratégies de capter l'innovation à flux réel. Bon, c'est une toute autre mentalité. Deuxièmement, il faut prendre acte aussi du fait que la puissance et la créativité sont maintenant à l'extérieur des organisations. Il y a beaucoup, vous savez, dans n'importe quel iPhone aujourd'hui, vous avez plus de puissance que n'importe quel smartphone, pas seulement ceux d'Apple. Vous avez plus de puissance de calcul que dans le Cray 2 qu'on achetait en 1985 dans 3 universités mondiales seulement pour faire de la physique nucléaire. Tout le monde a un Cray 2 dans la poche. Tout le monde est en réseau et tout le monde a envie de créer. Ça change. Alors là aussi, si je fais une analogie avec les entreprises, il y a bien des grandes organisations qui n'ont pas du tout intégré encore que leurs salariés, leurs clients ont plus dehors que dedans. Alors ça peut amener à une certaine saturation. Hein. Finalement, pour l'éducation nationale, il y a 100 ans, nous étions, vous étiez, le lieu le plus intéressant dans la vie d'un gamin. C'est là qu'on voyait des rois de France, des leçons de choses. C'est là qu'on avait accès à des médias. Aujourd'hui, peut-être faut-il se demander si c'est là qu'on va apprendre à contrôler les médias, ne pas se laisser envahir, à imposer son temps. En tout cas, la situation s'est inversée entre l'intérieur et l'extérieur. Alors j'ai dit un mot de la nouvelle compétition économique, mais il faut bien voir que nous avons des géants, dont certains seront inquiétants, qui travaillent autour de l'idée « je sais tout sur mes utilisateurs » et nous sommes aussi entrés dans un monde de transparence totale et je vais m'organiser pour capter leur vision, leur créativité, leurs aspirations, leurs traces, etc. Et puis enfin, c'est un monde qui porte et qui se nourrit de valeurs sociales différentes. Pour rester sur un niveau d'un exemple, les jeunes ingénieurs que je recrute aujourd'hui sont bien plus intelligents que moi au même âge. Et en particulier, ils se sont choisis leur maître. Moi, il y a 20 ans, quand on passait son bac, on avait le choix de lire la presse française et d'écouter ses enseignants. Aujourd'hui, on a le choix de choisir tel blogueur américain, tel prof de Stanford, ils ont lu TechCrunch et ils se sont fait leur religion. Il y a une sorte d'embarras du choix à qui on adhère. Et ça fait une différence, rien que sur cet exemple-là, qui est considérable. Et donc, on est entré dans un monde un peu désinstitutionnalisé, où bien sûr, les autorités, vous avez peut-être vu ce texte magnifique de Michel Serres sur la petite poussette, qu'on peut retrouver en ligne, et qui fait remarquer que Raymond Domenech est le précurseur d'un monde où il sera extrêmement difficile d'être le sélectionneur de l'équipe de France, puisque tout le monde a son avis, et tout le monde peut le partager, et tout le monde peut le défendre. Enfin, bien sûr, c'est un aspect corollaire de ce numérique, mais nous sommes entrés dans une vraie mondialisation des idées, etc., et nous entrons dans un monde où il y aura compétition des ressources et des systèmes éducatifs, voire des diplômes. Alors c'est plus vrai pour l'enseignement supérieur, mais il faut en prendre acte. On peut aussi se demander, finalement, dans une stratégie de carrière, est-ce que j'ai intérêt à prendre un diplôme français ou américain ou chinois ou à me construire mon propre truc ? Je vais être bref, mais en matière d'efficacité, dans ce monde-là, que peut-on faire pour l'éducation ? Je n'ai pas plus les réponses qu'il y a 5 ans quand je suis allé vers d'autres aspects du numérique. Hier, je n'étais pas là, mais il y a eu un compte-rendu abondant sur Twitter de la conférence. D'abord, comme l'a dit quelqu'un hier, je pense que la technologie doit être invisible. Ça doit être au moins comme à la maison. Donc s'il y a un embarras de la technologie, s'il y a une inquiétude quand on rentre en salle réseau, si on ne sait pas si ça va marcher, ça ne marchera pas. Donc il faut l'oublier, il faut passer à autre chose. Et donc il faut que les réseaux fonctionnent, il faut que les profs et peut-être les élèves aient ce qu'il faut dans la poche. Mais vraiment, le point important, c'est oublions-la. Et pour qu'on l'oublie, qu'elle marche en plug and play. Deuxièmement, moi je pense, et j'en parlais souvent il y a quelques années, il faut mettre des degrés de liberté dans le système. Dans un monde où l'innovation est permanente, il faut jouer les innovateurs, il faut savoir jouer ce qu'on appelle, nous, l'open innovation. Et donc, vous savez, j'avais presque l'intuition, quand j'essayais de vendre des ressources éducatives à l'éducation nationale, que c'était la dotation globale horaire qui était la clé. C'est-à-dire, si le prof a des heures où il fait ce qu'il veut, il va inventer des pédagogies et il va acheter des ressources. Et c'est plus important que... Donc il faut des degrés de liberté, encourager cette liberté. Je crois aussi qu'il nous faut des écoles alsaciennes du numérique. Il n'est pas indifférent que le même Jules Ferry, qui a un petit peu standardisé quand même et un peu taylorisé l'éducation nationale, ait inauguré l'école alsacienne, et vous pouvez trouver son discours en ligne, en disant « nous avons besoin aussi d'avant-garde, d'expérimentation permanente qui vont nous produire des pratiques que nous saurons massifier ». Et je crois que s'il n'y a pas quelques établissements qui ont le droit d'innover de toutes les manières qu'ils le souhaitent, y compris dans l'organisation administrative, y compris dans l'emploi du temps, y compris dans les relations avec l'extérieur de l'établissement, avec les associations, avec les parents d'élèves, etc., on n'inventera pas grand-chose de probant. Je crois aussi qu'il y a la place pour ajouter de nouvelles choses en matière de recherche éducative. Nous n'avons pas, à ma connaissance... Alors, c'est éculé, mais de Media Lab de l'éducation, c'est-à-dire d'institutions ramassées qui cherchent la rupture la plus radicale et qui surtout se disent, c'est pas nous qui trouverons, il nous appartient de former les gens qui seront capables de trouver ce qui va se passer. Donc ils cherchent des étudiants très créatifs, qui les poussent à être encore plus créatifs, qui les poussent à prototyper rapidement, à expérimenter, etc. Et pour finir, parce que je crois que j'ai dû occuper mes 10 minutes, je pense que, puisque nous sommes dans un séminaire de travail international, nous avons une grande chance, en travaillant avec les pays émergents, si nous les voyons justement comme de fabuleux laboratoires. Parce qu'évidemment, les gens qui bâtissent des systèmes éducatifs aujourd'hui ne vont pas travailler comme nous. Et c'est ce qu'on appelle souvent en technologie le leapfrog. Ils vont passer une étape et aller plus vite à l'étape suivante. Et je pense que, enfin, vous savez tous qu'on va créer 100 millions d'étudiants supplémentaires dans les 10 années qui viennent, dont 70 millions en Asie. Il faut regarder très attentivement, il faut jouer avec ces gens-là pour voir comment eux détournent le numérique, utilisent le numérique. Enfin, nous devrions nous dire, l'international, là, c'est un réseau d'expérimentateurs qui testent des tas de situations différentes et traitons-le comme tel. Voilà quelques petites idées que je vais partager avec vous.
Merci.
Merci beaucoup. Vous nous avez offert 10 minutes de prise de distance et de perspectives qui finalement restent pour vous très optimistes. Merci. Monsieur Pavillard.
Voilà, bonjour. Alors, effectivement, la question qui m'a été posée, c'est qu'apporte la recherche logicielle pour un enseignement numérique universel en classe avec un TNI. Ma proposition, c'est de revenir pas au temps de Nabucodonosor, mais en informatique, c'est à peu près la même chose. C'est il y a presque 10 ans en arrière, quand on a commencé à développer le logiciel qui aujourd'hui s'appelle Sankore. Alors je vais vous passer un petit film qui est plein de bons souvenirs. Et en fait, ce film-là a été fait par une émission de nouvelles technologies de la télévision suisse romande, donc en Suisse, quand on était en plein milieu en fait de l'aspect de recherche autour du logiciel. Donc je propose de vous passer ça. Et on discutera de la suite. Alors on va voir si au niveau du son...
...qui semblait devoir traverser le temps, c'est bien le vénérable tableau noir. Des générations d'élèves ont séché devant et aucun maître n'aurait renoncé à cet auxiliaire. À l'université de Lausanne, le tableau noir vit pourtant ses dernières heures. Pour Dominique Arletin, son cours de maths est inconcevable sans démonstration logique au tableau.
De la suite
au cours suivant, il a troqué la craie poussiéreuse contre le stylet électronique. Il teste un prototype du tableau noir du futur.
Je suis à la trace qui se passe.
Il écrit directement sur un écran d'ordinateur spécial. L'image est projetée aux étudiants. Le changement a l'air minime, mais l'effet sur l'auditoire n'est pas le même.
Moi, personnellement, je préfère la personne qui écrit au tableau noir parce que j'ai toujours vécu cela. Mais... Ça peut être intéressant de voir comme ça une autre approche.
Quand un professeur se trouve devant un tableau noir, qu'il y a une interaction avec l'auditoire ou avec la classe, qui n'est pas forcément là quand le professeur est juste devant une tablette.
Entre propreté et efficacité, le jugement de l'enseignant est réservé.
Il y a un avantage qu'il faut bien reconnaître, c'est que ça élimine tous les problèmes énormes de poussière. En revanche, je pense que ça serait plus agréable de l'utiliser debout pour avoir, pour pouvoir être plus libre dans ses mouvements et avoir peut-être un meilleur contact avec l'auditoire.
C'est lorsqu'il a fallu prévoir l'équipement de l'auditoire de 1000 places du collège propédeutique que le tableau noir a signé son arrêt de mort. Dans cette future salle, l'étudiant le plus éloigné est à 35 mètres du prof, et mine de rien, écrire au tableau peut se transformer en véritable souffrance.
Pour les grandes salles, c'est un mal nécessaire, parce que clairement, le tableau noir ne fonctionne plus. De loin, l'étudiant ne voit pas. On a beau pousser sur la craie, ça n'aide pas. Donc c'est nécessaire, on ne peut pas y couper.
Deux tableaux seront installés pour la rentrée d'octobre. Il n'existait pas de solution commerciale. L'UNI a dû concevoir son propre système intuitif.
Prendre une craie, écrire sur un tableau, rien de plus facile. Donc le but était vraiment d'avoir un système qui permette au professeur de se concentrer sur son cours et de ne pas avoir à réfléchir sur ce qu'il doit faire, comment il doit utiliser l'outil.
En principe, aucune formation ne sera assurée pour les profs et il faudra bien se jeter à l'eau.
Je crois que comme toute nouvelle technologie, au début, il y aurait une réticence. On ne connaît pas, c'est l'inconnu, c'est le risque. Quand on pense qu'aujourd'hui encore, certains collègues n'utilisent pas le courrier électronique, parce que... Donc, ça viendra, mais il faudra du temps.
Les autres universités ont souvent renoncé à installer des tableaux noirs. L'enseignement se fait au moyen de présentations électroniques type PowerPoint. Le centre audiovisuel de l'université, chargé de trouver un successeur au tableau, s'est penché sur les limites de la méthode.
Dans l'écriture, on écrit à une vitesse de 25-30 mots par minute, ce qui permet à l'apprenant de noter à la même vitesse. Alors que dans une projection type PowerPoint, par exemple, on va à la vitesse qui est la même que la vitesse de lecture orale, environ 150 mots par minute, ce qui veut dire qu'un étudiant ou un apprenant, il ne capte qu'un mot sur 4 ou un mot sur 5.
Une fois la période de rodage terminée, l'université compte installer largement ce remplaçant du tableau noir unique au monde et n'exclut pas de le commercialiser.
Voilà. Alors, je pense que c'était assez intéressant. J'ai retrouvé cette vidéo hier. J'ai changé ma présentation, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis, finalement, la plupart des observations qu'on a faites il y a 10 ans pour servir de base au développement du logiciel, elles sont vraiment toujours d'actualité aujourd'hui. J'avais notamment noté hier Jean-Michel Blanquer qui disait « Il ne faut pas opposer innovation et tradition » ou Alain Chaptal qui disait « Les enseignants doivent s'adapter aux machines » qui était une problématique souvent dans l'informatique. On a eu un exemple aujourd'hui où on disait « Il faut que la technologie s'efface ». Ou bien dans le public, il y avait quelqu'un qui a dit « on oublie trop souvent la substance au profit de l'outil technologique ». Et on voit dans ce reportage la réticence qu'il y a de la part des professeurs, des remarques qui ont été faites, des réticences aussi de la part des élèves. Et finalement, la façon dans laquelle on a procédé pour développer le logiciel Uniboard à l'époque, qui s'appelle Sankore aujourd'hui, a été basé sur 3 piliers. Le premier, et là il y a eu un travail d'accompagnement et de recherche qui a été fait grâce à l'équipe du professeur Jacques Lanarès de l'Université de Lausanne, notamment sur les sciences cognitives. Et un point qui était important, qui a été cité, c'était l'importance de l'écriture manuscrite. Il est vrai que quand on écrit, ça n'a pas le même effet au niveau de l'assimilation des connaissances que quand on vous passe des bouts de mots ou des écrans les uns après les autres. Le fait d'écrire au tableau améliore clairement, et ça a été démontré, l'assimilation des connaissances. Donc ça, c'était un point qui était très important pour nous, c'était de reproduire en fait cette notion d'écriture. Le deuxième, c'était la mixité des médias. C'est clair que quand on écrit quelque chose, c'est bien. Quand on rajoute du son, c'est encore mieux. Quand on rajoute de l'image, c'est encore mieux. Et de nouveau, les études l'ont démontré. Donc, c'était important de pouvoir offrir un outil qui non seulement permettait d'écrire, mais de mélanger ces médias. Et grâce à l'informatique, on arrive à le faire, ce qu'on n'arrive pas à faire sur un tableau noir traditionnel. Et le troisième point qui était aussi très important, c'est le confort des utilisateurs. On l'a entendu dans le reportage, le professeur disait « j'aurais préféré l'utiliser debout ». Je vous rappelle que le logiciel a été créé au début pour l'université, donc des cours magistraux. Et Une chose qui a été vraiment appréciée quand on a mis en place le logiciel, c'est le fait que le professeur puisse écrire en étant face à sa salle en permanence et pas en leur tournant le dos pour écrire au tableau. C'est un point qui est tout simple, mais qui est aussi important. L'autre, c'était, on a pris en compte des points comme l'inclinaison du pupitre, par exemple. La taille de l'écran, on n'a pas choisi de prendre un tableau électronique, mais une tablette graphique avec un écran intégré. Mais l'utilisateur, c'est aussi l'élève. Et un point qui était très important, qu'on a remarqué au travers des recherches qu'on a fait, c'est que trop souvent, la taille de l'écran de projection est trop petite, n'était pas adaptée à la taille de l'auditoire. Donc on a développé une petite formule qui nous permettait de savoir, par rapport à la taille de l'écriture, comment guider le professeur dans la taille de son écriture pour qu'il y ait un confort visuel, même pour l'élève qui se trouve à 35 mètres au fond de la salle. Donc ça, c'était un premier aspect de recherche. Qui a fait appel à diverses équipes. Le deuxième point, c'était l'implication très forte des utilisateurs. Là, on a fait un travail assez simple. Premièrement, c'était l'observation des pratiques. L'Université de Lausanne, pendant 5 ans, a fait un certain nombre de sondages auprès des professeurs et des élèves pour savoir finalement quels étaient les outils qui étaient utilisés dans l'enseignement et quel était le rapport des élèves par rapport à ces outils. Et notamment, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a l'impression que beaucoup d'enseignants utilisaient PowerPoint, ce qui était le cas, plus de 50%. C'est un nombre qui a augmenté au fur et à mesure des années. Par contre, il y avait en permanence l'accompagnement du tableau noir. Donc cette mixité des outils était quand même importante. De l'autre côté, on a remarqué que les élèves détestaient PowerPoint. Ça, c'était un point clair, ce qui nous a permis après justement de valoriser ces notions d'écriture manuscrite, etc. Le deuxième point, c'est les panels d'utilisateurs. Ça se fait beaucoup dans plein de domaines. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on prend un groupe précis de professeurs, 14 en l'occurrence, qui nous ont suivis tout au long du développement. Et on a pris autant les professeurs les plus technophobes que les plus technophiles. Et ça nous a permis en fait de développer notamment les aspects de l'interface utilisateur. C'était très important. Et on a bien entendu utilisé un processus très itératif. On faisait ce qu'on appelle des sprints dans le développement, c'est qu'on faisait des phases de développement d'une semaine et après on montrait le résultat aux enseignants qui nous faisaient leurs marques et on corrigeait au fur et à mesure. Ce qui nous a permis en l'espace de 6 mois de développer un logiciel qui a été mis en production à la rentrée universitaire sans aucune formation initiale. Et ça, c'était un point qui était très important, qui a été relevé. Et c'est un point qui est aussi, je pense, globalement important pour l'usage des TNI. On sait que le 80% du coût d'équipement de TNI dans un budget d'une école, c'est la formation et la formation continue. Donc c'est un budget qui est énorme. Et le fait d'enlever une certaine complexité permet de réduire ses coûts, donc de faciliter aussi l'adoption de l'outil. Très bien. Le dernier point, c'est l'innovation technologique. Ce qui était très important, c'était l'utilisation de standards ouverts. Comme l'a dit Patrice de Instruction, il y a un problème au niveau des logiciels de TNI actuels, c'est que c'est des logiciels propriétaires avec des formats propriétaires. Et il y a un gros problème dans l'échange de contenu. Donc pour pallier à ça, le logiciel Sankore est basé sur des standards ouverts. C'est très très important. Le deuxième point, c'est le fait qu'on utilise ces standards ouverts, c'est que le contenu peut être disponible non seulement sur un ordinateur, mais peut être consulté au travers d'un navigateur web, avec un smartphone, avec une tablette. Et grâce à ça, on met à disposition le contenu à l'ensemble des utilisateurs. Et le troisième point, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est le fait d'effacer la technologie. Et quand on a mis en place le logiciel Uniboard, le seul moment où le professeur voyait qu'il avait un ordinateur, enfin, par le fait que c'était un écran, c'est qu'il devait utiliser le clavier pour entrer son nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois qu'il l'avait fait, tout était automatisé, il n'avait qu'à prendre son stylo, commencer à travailler. Il n'avait pas besoin de savoir où il sauvegardait son cours, il n'avait pas besoin de savoir comment il le faisait, quand il le faisait. Tout était automatisé, il pouvait passer d'un auditoire à l'autre, ses cours le suivaient systématiquement. Et je crois que c'est l'ensemble de ces points-là qui ont fait qu'on a eu au départ une adhésion de l'ensemble des enseignants et qui a fait qu'au bout d'une année, on est passé de 2 auditoires équipés à 15 auditoires équipés et maintenant à 75 auditoires équipés à l'Université de Lausanne et au final qui a permis de créer la start-up qui a continué à commercialiser le logiciel Uniboard et qui est devenu, grâce à l'intervention de la DIENA, un logiciel libre et gratuit. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et la dernière intervention de cette table ronde, Jean-Yves Capul. Jean-Yves Capul qui va vous présenter plutôt un bilan des investissements d'avenir. Jean-Yves Capul, sous-directeur à la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale.
Voilà, donc je représente un secteur de la Direction générale de l'enseignement scolaire qui s'occupe de développer les usages du numérique dans les classes. C'est donc une mission d'animation, de pilotage, de cadrage, d'évaluation, une administration de mission, comme l'on dit dans le langage administratif. Et pour le numérique, bien sûr, nous expérimentons, mais aussi nous cherchons à généraliser. C'est vraiment ça la mission de ce secteur du ministère de l'Éducation nationale, c'est la généralisation des usages du numérique dans toutes les classes. Je donnerai juste un exemple pour vous montrer l'ampleur de cette tâche, mais aussi l'avancée que nous avons faite ces derniers mois. C'est la généralisation du cahier de texte numérique et sa substitution au cahier de texte papier, qui normalement est une obligation depuis la rentrée dernière dans tous les collèges et les lycées. Bien sûr, ça prend un petit peu plus de temps, mais on voit bien là quand même une avancée majeure, puisque lorsque ce sera généralisé dans tous les établissements, aucun enseignant ne pourra échapper à un usage du numérique pour simplement présenter le travail qu'il fait, le travail qu'il doit faire avec les élèves. Alors je vais rappeler ici une évidence pour tout un chacun, mais qui ne l'est pas dans le monde de l'éducation nationale, c'est que nous travaillons dans un secteur qui tous les jours collabore avec les acteurs du monde économique. C'est pas évident à la Direction générale de l'enseignement scolaire, mais nous travaillons tous les jours avec les éditeurs, avec les industriels, certes avec d'autres acteurs de la vie sociale que sont les collectivités territoriales, mais aussi beaucoup avec les acteurs économiques, sous différentes formes, sous forme de partenariats. Je ne les rappellerai pas, il y a certains représentants ici de grands partenariats que nous avons menés, sous forme d'appui au développement et à la diffusion des ressources numériques pédagogiques, avec un certain nombre de crédits budgétaires, certes en diminution, mais qui ont été affectés par la sous-direction autrefois d'ETIS et maintenant la sous-direction du développement numérique, pour aider un certain nombre de productions numériques et aider aussi à leur diffusion dans les classes. Il y a bien sûr le rôle que nous avons mené pour piloter des grands plans numériques. Alors, on a cité tout à l'heure le plan école numérique rurale. Aujourd'hui, c'est le plan numérique du ministre Luc Châtel, avec des montants certes moins importants, mais une dynamique tout aussi significative avec les collectivités locales, puisque les objectifs de ces plans, c'est aussi de montrer aux collectivités locales que nous prenons les choses à bras-le-corps, que nous investissons, nous, en termes d'accompagnement, de formation, et qu'elles ont toutes les bonnes raisons d'investir aussi en termes d'équipement et d'infrastructures. Il y a un dernier point sur lequel nous avons un rôle actif, c'est ce pourquoi on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est le grand emprunt et son utilisation avec les investissements d'avenir. Il y a dans ces investissements d'avenir un volet numérique très précis. Alors évidemment, quand je donne le chiffre du volet numérique, ça l'a fait un petit peu sourire par rapport à l'écart, par rapport à ce qui sera réellement investi, mais pour le volet numérique, c'est 4,25 milliards qui sont prévus pour ce volet numérique. Alors le grand emprunt et les investissements d'avenir sont pilotés par le commissariat général investissement et son commissaire général René Ricol, et le MINEFI joue évidemment un rôle assez important dans cette opération-là. Le volet numérique concerne pour la moitié de cette somme la couverture du territoire en très haut débit, mais il reste 2,25 milliards pour, je cite, le soutien au développement des nouveaux usages, services, contenus numériques innovants. Alors, les volets sont évidemment nombreux, la ville numérique, la e-santé, tous les domaines de recherche, la nanotechnologie en étant un des plus importants, l'informatique dans les nuages. Mais il y avait deux volets qui concernaient l'éducation. Le premier, c'était la numérisation des contenus culturels, scientifiques et éducatifs. Et le deuxième, le plus important, sur lequel je m'attarderai, le volet e-éducation. Les modalités des investissements d'avenir se sont faites sous deux formes, des appels à projets pour la recherche et le développement, et puis des appels à manifestation d'intérêt avec la thématique éducation. C'était pour des projets qui sont au seuil de leur commercialisation, qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur marché, mais à qui il manque un petit stimulus. Et cet appel à manifestation d'intérêt a été lancé il y a quelques mois. Alors, je vais rester sur les appels à projets. peu de choses sur l'appel à projet numérisation des contenus. Il y a eu 72 projets déposés, mais au final, deux concernaient seulement l'éducation. En revanche, sur le volet e-éducation, les choses sont plus intéressantes à expliciter. Alors, l'appel à projet e-éducation a été lancé en avril 2011. Les thématiques que nous avions mises en avant, je reviendrai après sur la gouvernance de cet appel à projet et de son pilotage, les thématiques étaient assez larges, évidemment axées sur la recherche-développement, des processus de production de ressources numériques, donc ce n'était pas à produire des ressources, il ne s'agit pas de faire de la commande publique, mais il s'agissait de travailler à des processus de production, la dématérialisation des équipements et des outils destinés à l'enseignement scientifique et technologique, ou encore, et c'est assez large, la recherche liée aux nouveaux usages, et on donnait un exemple qui était le développement d'outils de ressources s'appuyant sur les sciences cognitives, dont on parlera encore tout à l'heure. 55 dossiers ont été déposés, analysés, 24 pour l'éducation, 12 projets retenus, dont 5 pour l'enseignement scolaire. Les domaines couverts concernaient l'enseignement des langues, les images en trois dimensions, les environnements numériques de travail, des plateformes de production de manuels numériques, les jeux sérieux. Je vais juste donner deux exemples parmi les projets retenus. Le premier, c'est le projet éducation 3D, l'objectif étant de construire un ensemble de briques technologiques pour rendre possible et durable une chaîne de coproduction ou de production de ressources pédagogiques 3D aptes à s'intégrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Ce projet prévoit de définir et d'évaluer les usages et les services les plus intéressants pour la pédagogie en s'appuyant sur l'acceptabilité cognitive des technologies 3D. Et évidemment, comme dans tous les projets, il comprend une réflexion sur le modèle économique et le marché sous-jacent, le marché à terme qui pourra être développé à partir de ces projets-là. Un autre projet, alors juste sur ce projet pour dire, sans citer évidemment les noms, c'est bien l'association d'un grand nombre de partenaires, des industriels, des PME, des grands groupes industriels de l'électronique, mais aussi des établissements publics, il y a un CRDP qui est dans ce projet-là, et un établissement public de recherche en télécommunication. Autre projet, deuxième exemple, ENT Libre 2.0, qui était proposé par un certain nombre de partenaires dans le même ordre d'idées de ceux que je viens de citer. Le projet ENT Libre 2.0 vise à développer des aspects fonctionnels d'une plateforme libre, et tout particulièrement à développer des interfaces entre cette plateforme et les différentes applications libres ou propriétaires que l'on souhaite utiliser dans l'éducation nationale. Et il vise aussi à étudier les conditions d'interface homme-machine, pour que l'ENT libre soit utilisable sur des terminaux mobiles et utilisable avec les applications qui sont développées dans ces nouveaux terminaux mobiles. Alors il y a eu des manques je me permets de souligner dans les projets qui ont été développés. Le premier degré, l'enseignement primaire, monsieur le doyen, aucun projet concernant l'enseignement primaire, ce qui est évidemment bien dommage. Deuxième manque, les laboratoires de demain dans les établissements pour l'enseignement des sciences et des technologies, on n'a eu aucun projet. Les dispositifs pour l'intégration des élèves en situation de handicap, on a vu aussi très peu de choses. Les dispositifs autour de TBI, aucun projet présenté. Et puis, aucun projet pour tout ce qui tourne autour de la mobilité, le nomadisme et des conditions d'utilisation de cette mobilité, de ces outils dans le cadre scolaire et dans l'environnement numérique déjà développé dans les établissements. Alors, un petit mot sur la procédure. Toujours un petit peu compliqué dans ces une minute, mais on va essayer d'aller vite, une présélection des projets et une décision de financement. La présélection des projets, il y a eu un comité d'experts pour examiner les projets, où étaient le ministère de l'Éducation nationale, Bercy, avec la Direction générale de la compétitivité, industrie et services, l'enseignement supérieur, la culture, la Caisse des dépôts et l'inspection générale. Ces projets ont été proposés à un comité d'engagement pour les subventions, qui lui-même a fait des propositions au Fonds national pour la société numérique, qui est en train de décider aujourd'hui des projets retenus. Alors, pour terminer, je donnerai quand même, et ça vous intéressera un certain nombre de personnes présentes dans la salle, le ministre a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'un deuxième appel à projet e-éducation allait être lancé. L'ambition est plus large que la recherche-développement, puisqu'il s'agit de faire émerger des modèles économiques autour de démonstrateurs, je vais dire de quoi il s'agit, démonstrateurs à l'échelle représentative, proposant un ensemble de services et reposant sur un partenariat très large. Alors, le cœur de ce nouvel appel à projet, même si les choses ne sont pas encore tout à fait officielles, c'est bien le développement des usages, fondée sur les technologies, contenus et services innovants. Un démonstrateur, c'est quelque chose qui se situe après une expérimentation et avant la commercialisation d'un produit, d'un processus, d'un service, d'une ressource. Travailler sur un démonstrateur, ça permet d'améliorer, de valider les technologies, de voir aussi quels sont les leviers et d'identifier aussi quelques verrous. Le projet de démonstrateur doit associer le plus possible de partenaires participant à la chaîne de valeur, en l'occurrence l'AI éducation, et on doit travailler évidemment à la pérennisation du projet. Et en l'occurrence, pour ce nouvel appel à projet, ce qui sera pris en compte évidemment, c'est qu'un grand nombre d'établissements, d'élèves et d'enseignants soient intégrés au projet. Alors il y aura une forme d'aide évidemment moins importante que pour ce qui était de la recherche et développement, puisqu'on l'a uniquement dans le développement des usages. Les thématiques que nous sommes en train de les définir, le ministère de l'Éducation nationale jouera évidemment un rôle moteur dans cet appel à projet comme il l'a fait pour le précédent, mais peut-être encore plus Bercy se désengageant légèrement de cette opération. L'appel à projet sera lancé au mois de décembre pour une clôture mi-mars, ce sera extrêmement, extrêmement rapide, et une sélection au printemps des projets. Voilà quelques mots pour présenter ce cadre, et j'insiste sur l'importance du nouvel appel à projet pour ceux qui seraient intéressés dans cette salle. Voilà, merci.
Merci Jean-Yves. Deux mots de conclusion.
Conclure est un bien grand mot, parce que là, on nous a ouvert quelques portes, il ne reste plus qu'à rentrer à l'intérieur de la salle pour pouvoir poser tout ce qui nous est proposé ici. Moi, je dirais que l'innovation technologique devient une innovation pédagogique à partir d'un certain processus d'appropriation par l'enseignant, et par aussi les élèves et les étudiants. Ça prend un certain temps, on peut se demander finalement, si on se place du point de vue d'un enseignant, à quelle vitesse il doit galoper derrière les technologies qui, elles, galopent très très vite. On ne peut pas rester trop en arrière, parce que sinon on serait plus crédible par rapport à l'auditoire que l'on peut avoir en classe. Mais on ne peut pas non plus coller trop aux technologies, parce que ça va provoquer des remises en cause, des changements perpétuels, puisque les technologies se succèdent à une vitesse assez importante. Donc il faut quand même garder une vitesse raisonnable, malgré tout. Bon, c'est à vous d'estimer quelle vitesse ça doit être. Deuxième chose, c'est que finalement, les outils numériques basés sur l'informatique, on parlait de l'ordinateur il y a quelques années, comme je dirais l'outil de base, était présenté comme une machine perfectionnée à écrire, une machine perfectionnée à calculer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que tout ça s'est complètement dépassé et que les outils informatiques aujourd'hui sont des machines à communiquer. Et ça, je pense que c'est le point le plus important. Ça permet effectivement de communiquer avec des systèmes, avec un certain nombre de sources d'informations. Et ça, l'interactivité permet de le faire, mais ça permet aussi de communiquer avec des personnes. Et on voit se développer effectivement des activités de travail collaboratif dans l'enseignement, ce qui me semble intéressant. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut faire la différence entre deux points de vue. Un point de vue qui est les outils numériques pour enseigner. Bon, c'est un point de vue qui a prévalu et qui prévaut encore pas mal, je dirais, dans le corps enseignant. Puis les outils numériques pour apprendre. Et là, on se passe d'un point de vue complètement différent, c'est celui, effectivement, de l'apprentissage par l'élève, par l'étudiant. Et je pense que se développe actuellement ce genre d'outils où on propose, effectivement, un certain nombre de possibilités d'auto-apprentissage, je dirais, plus ou moins guidées, d'ailleurs, par un certain nombre d'enseignants encadrants. Mais je pense que ça, c'est important, et ça rejoint aussi, d'ailleurs, une des compétences clés de l'Union européenne, qui est apprendre à apprendre. Et donc les outils numériques favorisent, je dirais, l'acquisition de cette compétence apprendre à apprendre. Là, j'en dirai pas plus pour laisser la parole à mon voisin.
Merci. Non, moi, je ne reconclurai pas sur la conclusion. Je voudrais simplement que vous remerciez l'ensemble des membres de cette table ronde qui ont réussi quand même un exploit en respectant le temps très contraint de vous dire, de nous dire l'essentiel de ce qu'ils avaient à nous dire et surtout de nous interroger et de vous laisser donc un tout petit peu de temps pour intervenir et pour qu'il y ait interaction entre la table ronde et ses membres. Donc merci à vous tous et la parole est à la salle.
Oui. Oui, merci à vous tous. Mais il y a un peu de temps pour quelques questions. Donc, Alain Madelin.
Juste un mot sur la très très intéressante perspective qu'a ouverte Henri Verdier en nous disant que dans l'éducation, comme dans bien d'autres domaines, le modèle de la société industrielle, verticale, hiérarchique, taylorien, etc., était profondément remis en cause par la société de la connaissance. Et s'il y a bien un domaine où, tout naturellement, cette remise en cause arrive, même si les changements sont lents, prudents, etc., c'est le domaine de l'éducation. Et que, d'une certaine façon, le numérique était un formidable outil d'accompagnement de cette mutation. Formidable, rien à dire, bravo, très bien. Simplement, allons un peu plus loin. Monsieur Capul, vous nous avez parlé des investissements d'avenir. Et là se pose tout de même un problème. Dans la mesure où la logique du grand emprunt consacré à ces investissements d'avenir, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour l'essentiel, même s'il y a une petite part qui n'est pas consacrée à cela, mais c'est où est la rentabilité ? Pas la rentabilité éducative, la rentabilité marchande. Alors, il y a un décalage là. Entre, d'un côté, ce qui nous est dit, l'écosystème du futur, c'est celui qui va mobiliser la créativité des enseignants. Hein, c'est la créativité des enseignants, j'utilisais cette formule hier, multipliée par la force du web. Énorme force révolutionnaire de mutation de l'éducation. La créativité de l'enseignant, est-ce qu'elle se marie bien avec un système marchand ? Ou est-ce que, au contraire, cette créativité de l'enseignant, comme on en esquissait la perspective, dans un système de logiciels open source, dans un système de ressources sous Creative Commons qui permettent la valeur ajoutée permanente, n'est pas la voie de cette mutation intelligente, de ces programmes numériques? Et j'ai le sentiment que l'éducation nationale n'a pas fait le choix. Et ne pas faire le choix, ou faire le choix de prolonger un système marchand en demandant, par exemple pour nous, qui développons une recherche pédagogique, qui essayons de développer par ailleurs des outils open source, un écosystème, on nous dirait, mais vous n'êtes pas éligible au grand emprunt. Parce que vous ne vendez pas l'éducation nationale, vous donnez. Ah, si vous vendiez à l'éducation nationale, ce serait très différent. Je m'interroge, Monsieur Capul, est-ce qu'on fait les bons choix ?
Merci. Mais est-ce que c'est la responsabilité de Monsieur Capul ?
Non, je crois qu'il n'y a pas, à répondre à Monsieur Madelin qui nous interroge. Qui nous interroge et, simplement, et moi c'est pas du tout, je ne me permettrai pas de répondre, je voudrais simplement dire que si apparemment il y a, et c'est plus qu'apparent, hein, une tension au moins entre des choix qui sont différents, je crois très, très sincèrement que l'éducation nationale fait quand même globalement beaucoup plus aujourd'hui le choix d'une ouverture vers la liberté, d'une impulsion vers l'intelligence, qu'elle ne la faisait il y a quelques décennies. Et donc, de ce point de vue, moi, je ne me permettrai pas non plus de dire que c'est du fait des technologies nouvelles, mais c'est vraisemblablement lié à cette introduction dans notre société d'une ouverture. Simplement, notre interrogation, c'est d'en mesurer les conséquences à moyen terme pour les élèves. Et là, je ne jouerai pas au devin. Je ne sais pas, et je crois que personne ne sait. Mais je... Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais je veux dire, l'éducation nationale utilise tous les moyens, quels qu'ils soient, et peut-être aussi le grand emprunt par rapport à des objectifs qui sont les siens.
Monsieur le doyen, juste un petit commentaire, parce qu'en même temps, par rapport à l'interrogation qui est la nôtre avec le programme Sans Corée, il y a quand même un signe d'espoir qui nous a été annoncé hier par Jean-Michel Blanquer. C'est l'accord que nous venons de signer entre la DGESCO et la DNA pour l'utilisation du logiciel Open Sans Corée par l'ensemble des CRDP, CNDP de France qui vont produire, et cette fois c'est notre exigence dans ce programme, des ressources numériques éducatives libres sous Creative Commons, à la fois destinées à la fois aux élèves mais également aux enseignants. Donc nous avons une piste ouverte avec le ministère de l'Éducation pour embrayer dans cette voie-là.
Merci et merci de confirmer cette annonce.
Et grâce à votre soutien, monsieur le doyen, et à l'inspection générale. Mais en même temps, il faut bien contribuer.
Oui, oui. Oui, monsieur Verdier, comme vous avez été, non pas mis en cause, mais vous avez été la source de l'interrogation de monsieur Madelin.
Rhétorique. J'ai envie de dire, enfin d'abord, effectivement, quand on regarde le rapport Juppé-Rocard et ce qui est devenu le grand emprunt après 17 moulinettes administratives successives, il y a une énorme différence qui est fascinante pour les historiens de l'administration. Je crois quand même qu'il ne faut pas opposer... J'accepterai pas une distinction du monde qui se diviserait entre marchands et non-marchands. D'abord, il y a tellement peu de créateurs et de créatifs et d'entrepreneurs qui peuvent être des profs ou des entrepreneurs, etc., qu'il ne faut pas les opposer. Deuxièmement, toute l'histoire que nous vivons, c'est justement le télescopage de traditions. Enfin, pour faire court et un peu caricatural, mais la révolution qu'on vit, que ce soit l'informatique individuelle ou Internet, c'est des hippies qui télescopent des militaires. Et c'est dans la fusion bizarre de ces deux mondes, mais c'est tout à fait vrai.
C'est une belle image.
Mais c'est pas une image, c'est l'histoire. Il fallait un mouvement extrêmement activiste et extrêmement politisé dans la Silicon Valley dans les années 50 pour dire, la 60 plutôt, pour dire l'informatique c'est un média, il faut rendre les médias au peuple, donc je vais inventer l'informatique individuelle. Mais il fallait aussi qu'on soit dans un lieu où on inventait les puces en silicium et où on savait faire des ordinateurs pour que des gens inventent la souris, l'interface graphique, etc. Et moi je crois vraiment que c'est dans l'espèce de fusion bizarre avec de l'open source payant, de l'open source gratuit, du libre, des plateformes d'usage, des marchands, des non-marchands, etc., qu'on est vraiment capable d'atteindre la créativité maximale. Donc je suis heureux que vous ayez entendu ce que j'ai dit, mais moi je n'irai pas jusqu'à opposer de manière drastique, sauf parfois face à l'administration, mais un monde marchand et un monde non-marchand. Oui.
Une autre question. Merci, bravo.
Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Henri Verdier, mais je pense qu'il y a effectivement une vraie opposition. Mais le clivage le plus important, et qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, dont le grand emprunt malheureusement porte la marque, c'est qu'on n'investit pas dans l'innovation. Le vrai clivage, il est là. Que ça vienne du secteur marchand ou non marchand, en gros, l'investissement de ce pays devait prioritairement être posé sur les questions d'une vraie innovation, d'un vrai saut qualitatif. Je prends l'exemple de ce qu'a fait Cyril, là, le logiciel Open Sans Corée. Si la DNA, en gros, n'avait pas pris la casquette de l'État, c'est-à-dire n'avait pas dit à un moment donné « oui, on reconnaît, on achète une production innovante qui vient du privé », eh bien, on n'aurait pas à disposition aujourd'hui dans le libre cet outil-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a besoin que la commande publique, à un moment donné, elle prenne ses responsabilités. Et elle ne le fait pas bien, à mon avis, moi aussi. Je pense que sur le grand emprunt, ben, c'est pas seulement un clivage marchand-non-marchand, c'est que toute la force de l'État aujourd'hui ne porte pas sur l'exemple qui vient d'être donné sur Open Sans Corée, c'est-à-dire en gros, on pourrait investir, et après, moi je suis d'accord avec Henri là, il peut y avoir complémentarité entre le libre, le prof qui est tout seul dans sa classe, et des outils modernes et très innovants. Donc la contradiction marchand-non-marchand, elle est gravissime parce qu'elle est accentuée et non pas utilisée comme une contradiction par la commande publique. Il y a une grande responsabilité de l'État dans la matière.
Merci. Juste un élément de réflexion complémentaire. Malgré tout, l'État et le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'annoncer, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, l'initiative intégrée au grand emprunt du programme IDEFI, initiative d'excellence pour l'innovation pédagogique. et donc avec 150 millions d'euros qui vont être destinés justement à l'innovation pédagogique, ce qui était un secteur qui n'avait pas été envisagé par le grand emprunt initialement. Donc il y a quand même des inflexions de la politique publique vers ce genre d'investissement et qui n'est pas interdit que des entreprises privées candidatent avec des universités ou des établissements scolaires ou des académies à cet appel d'offres qui doit se clore, je vous le signale, ceux qui ne connaissent pas le programme IDEFI, qui doit se clore le 15 décembre. Si vous avez des initiatives à proposer, n'hésitez pas à le faire.
Merci. On va repasser vraiment la parole à la salle et peut-être simplement, non pas pour clore ce débat, mais vraiment l'ouvrir. Je pense que si on prend un peu un recul d'historien de l'administration ou de l'éducation, on se rend compte que la question même qui est posée est totalement innovante. Parce qu'en gros, comment un État moderne, contemporain du 21e siècle, peut-il impulser quelque chose qui, par essence, ne doit pas être encadré, doit être libre, doit être pétillante. C'est presque une contradiction avec la tradition que nous avons de fonctionnement de nos institutions. Et quand je dis État, nos institutions, même la mienne. Ce n'est pas du tout dans notre habitude d'impulser une dynamique hors d'un cadre et qui doit rester complètement hors d'un cadre si elle veut être productive. Il y a plein de questions. Jean-Louis, peut-être, c'est le premier doigt que j'ai vu.
Inspection générale. Oui, merci. Donc, Jean-Louis Durper. Les réflexions qui me viennent sont aussi en rapport à ce qu'a dit Henri Verdier tout à l'heure. Il a cité à la fois les pays émergents qui ont une grande chance de développer des systèmes éducatifs aujourd'hui. C'est une façon de voir les choses. Je vais bien y souscrire. Et en même temps, il a référé à notre propre système en citant Guizot et puis Hachette. Donc effectivement, cette continuité extrêmement, cette liaison extrêmement forte entre un système qui se construit et un modèle d'édition avec des outils et une centralisation qui caractérise la France. Et aujourd'hui, il me semble que effectivement, la difficulté d'affronter la technologie et les ressources, elle est aussi très, très, très compliqué par le système tel qu'il est devenu, et notamment un point sur lequel moi je reviens souvent, c'est la question budgétaire. Je trouve que en matière de ressources, aujourd'hui, et on l'a écrit dans beaucoup de rapports, mais le fait que la commande soit éparpillée entre les collectivités territoriales, d'une part pour ce qui concerne les régions et les communes, et d'autre part l'État pour ce qui concerne la commande, par exemple, des manuels scolaires, et puis ensuite, le fait que dans les budgets, on ait des budgets très éclatés qu'on n'arrive pas à réunir, je crois que c'est un obstacle réel en delà des questions tout à fait innovantes. J'ai eu l'occasion d'entendre René Ricol souligner la pauvreté effectivement de l'offre qui avait été faite en matière de grand emprunt. Mais à l'autre côté, il y a des difficultés qu'on a dans le système scolaire pour faire bouger les ressources parce que c'est très éparpillé. Que voulez-vous faire bouger quand vous êtes principal d'un collège de 200 élèves avec un budget qui est éclaté entre des manuels qui vont venir un peu de l'État et puis d'autres ressources que sur d'autres lignes budgétaires. Je crois qu'il y a des questions qu'il faudrait traiter aujourd'hui au niveau national pour donner plus de souplesse à la commande locale et probablement que le budget de l'établissement, les lignes budgétaires devraient évoluer, mais deuxièmement, il faudrait les dépasser parce qu'on a le problème de la structure de ces petits collèges qui est un obstacle qu'on n'a pas du tout au niveau des universités. Moi, je cite souvent l'exemple de ce qui se fait avec des consortiums comme Couperin, qui peuvent faire face à des grands groupes qui ont une offre tout à fait intéressante. On n'a pas aujourd'hui la possibilité, j'allais dire, entre guillemets, de nourrir les iPads ou les tablettes, tout simplement parce que on n'est pas organisé du point de vue budgétaire.
Oui, Alain Madelin.
Alain va répondre. Juste une réflexion quand même complémentaire. Nous sommes dans le numérique. On ne peut pas comparer à un manuel scolaire. Le coût marginal de reproduction d'une ressource numérique, c'est zéro. D'où l'intérêt. Le coût de production, il a un coût. Il peut être gratuit par un enseignant, il peut être fait par une entreprise privée, etc. C'est pas le problème. Mais d'où l'importance, vous avez tout à fait raison, de la commande publique. Monsieur la commande publique, elle doit permettre à un moment donné d'acheter la fabrication d'une ressource numérique pour ensuite tout droit de reproduction libre pour ensuite la mettre en circulation. En tout cas, c'est cet écosystème-là qui m'apparaît vraiment évident. Et c'est vrai que la dispersion des acheteurs, elle n'est pas bonne. Nous avons une centralisation de la commande publique à un moment donné. Elle doit jouer son rôle pour acheter, libre de droit ensuite de reproduction, les ressources et permettre leur diffusion à coût marginal nul, et si elles peuvent être mises sous Creative Commons, leur enrichissement par les communautés enseignantes mobilisées autour de ces ressources. La vraie question est que dans ce domaine, nous avons énormément, je citais l'exemple hier, sur quand même 750 millions, c'est pas rien, de numérisation de notre patrimoine éducatif, c'est-à-dire que un tableau qui appartient à l'histoire de France, qui est conservé dans un musée, gardé avec de l'argent public, des gardiens payés par l'argent public, qui ensuite va être mis en œuvre dans un... Pourquoi ? Et qui va être numérisé avec de l'argent public, ne sera pas libre de droit derrière. Vous voyez l'obstacle que cela met à la confection de ces ressources éducatives numériques dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je crois vraiment à la fécondité de ce système et le rôle, vous avez raison de le souligner, de la commande publique sur le numérique, mais pour derrière permettre leur diffusion à coût marginal nul. C'est un nouveau modèle économique.
Oui, monsieur le ministre, j'entends bien, comme j'ai le micro, je me permets de vous répondre. Sur ce plan-là, il y a évidemment deux éléments. Nous apportons un soutien à l'équipe Sankore, et notamment sur le fait que les ressources, il faut les créer, mais aussi il faut les faire connaître, qui est un autre point. Donc il y a les besoins des réseaux ici institutionnels, et très souvent c'est trop séparé. Je veux pointer seulement un aspect particulier. À côté de cette dynamique-là, il y a aussi de la ressource éditoriale. Vous-même, vous avez reçu tout à l'heure un ensemble de documents qu'on peut recevoir par écrit ou qu'on peut recevoir aussi sur nos tablettes. Dans nos établissements, aujourd'hui, il y a des budgets. Et notamment dans les collèges et les lycées, il y a ce qu'on appelle les CDI et il y a aussi les budgets des manuels scolaires. Tout ça n'est pas visible. Je pointais seulement ce plan-là. Ce n'est pas visible et ce n'est pas relié. On a une question de nomenclature budgétaire qui existe au-delà de cette ressource que vous appelez. Ces crédits-là, ils existent. Le budget des CDI, j'avais fait le calcul il n'y a pas très longtemps, c'est 42 millions d'euros par an. C'est moins que les ressources des bibliothèques universitaires et des services communs de documentation, c'est de l'ordre de 70 millions, mais parce qu'on néglige d'autres lignes budgétaires, comme celles, par exemple, des manuels scolaires, qui sont des crédits qui existent. Et je disais simplement, à côté de ce mouvement, cet écosystème que vous avez signalé très, très fortement hier et encore aujourd'hui, il y a à intégrer, à mon avis, dans cet écosystème, ces ressources-là, mais aussi les ressources éditorialisées. Aujourd'hui, l'université ne pourrait pas vivre sans avoir tout l'apport des publications qui restent malgré tout payantes et qui sont disponibles. Il y a l'ensemble des ressources à prendre en considération. Et donc pour moi, on a aujourd'hui dans le système scolaire un vrai problème de ligne budgétaire.
Jean-Louis, je te signale que avec les universités numériques thématiques nationales et francophones, les ressources numériques d'enseignement pour l'ensemble de l'enseignement supérieur sont libres et gratuites. Et malheureusement, ces éléments ne sont pas connus suffisamment, même du public enseignant, non, du supérieur.
Non, Albert-Claude, tu n'as pas que ça. Tu as une grande ensemble partie de ressources. Oui, mais tu peux pas. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup d'universités dans la salle.
Mais ce n'est pas le seul. Il y a bien une hybridation forcée entre l'ouvert, le gratuit, le produit par le meilleur des universités françaises. Ça existe,
oui.
Puisque je dirige l'université numérique, oui, thématique des sciences de la,
oui,
santé.
Oui, oui, oui.
Je peux te dire que ça couvre l'ensemble de la formation médicale depuis le début jusqu'à la fin des cycles de spécialité. Donc c'est pas n'importe quoi. Malheureusement, c'est en compétition et il y a effectivement, il faut bien le reconnaître, une bataille des lobbies des éditeurs contre le processus des ressources numériques éducatives libres et ouvertes. Mais je crois que cette bataille, le lobby la perdra parce que le processus n'est pas seulement national pour la création des ressources numériques éducatives libres et ouvertes, il est international. Venez le 24 novembre à Educatis assister à cette réunion où j'invite le ministère espagnol de l'éducation nationale qui, lui, a une politique totalement hybride avec une diffusion extrêmement ouverte, forte, de l'ensemble des régions fédérales, en libre, sous Creative Commons, est traduit déjà dans la plupart des langues européennes. Mais ce n'est pas interdit sur les plateformes du ministère espagnol. Il y a une publicité pour les ressources des éditeurs. Alors après, chacun fait son marché. Mais quand on a une offre publique qui permet l'égalité des chances, c'est l'essentiel pour les étudiants et pour les enfants. Je crois que ça, c'est un élément de politique publique que nous nous devons, et je partage totalement l'avis d'Alain Madelin, avec l'argent public, il faut se battre pour obtenir le meilleur pour tous. Et évidemment, quand c'est libre et gratuit, ça marche encore mieux.
Merci. Il y a une question, ce sera la dernière. Monsieur. Oui. Monsieur.
Oui, pardon. Un micro.
Voilà. Voilà.
Ah. Tu nous dis qui tu es pour.
Donc,
pour
Pascal Estrayer, Université de La Rochelle et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Juste une question ou une remarque. Je n'ai pas entendu me parler en matière de recherche et d'innovation, et surtout lorsqu'il va y avoir financement des expérimentations, du problème des freins au passage à l'échelle. Et je pense qu'un des questionnements que l'on devrait avoir, c'est l'ensemble, identifier l'ensemble des freins de passage à l'échelle, parce que mener des expérimentations, et en particulier quand on est dans le supérieur, c'est relativement facile, on peut trouver des moyens. Par contre, il y a énormément de freins lorsqu'on veut le faire passage à l'échelle, et Cyril peut aussi témoigner sur ces aspects-là.
Merci. Merci. Peut-être que Henri Verdier, qui est le plus prospectiviste d'entre nous, peut-être avoir des éléments de réponse.
Oui, j'improvise une réponse. Non, j'ai compris. Oui, c'est un énorme sujet. Il y a peut-être on peut peut-être aller puiser du côté de la conduite du changement. Il y a peut-être des recherches spécifiques sur le passage à l'échelle. Si on revient de nouveau à essayer d'analyser, voir ce qu'on peut tirer des grandes stratégies des géants du numérique émergent. Vous avez vu par exemple que Tim O'Reilly, qui est le grand organisateur de conférences et de visions aux États-Unis, qui a sorti l'expression Web 2.0, récemment Big Data, etc., a publié un petit livre il y a un an qui s'appelle Government as a Platform, et qui dit que les gouvernements, au sens large, doivent apprendre à devenir des espèces de plateformes sur lesquelles peuvent se greffer les innovations, être des API, c'est-à-dire produire de la donnée qui sera de la ressource pour que d'autres inventent des innovations, des usages, etc. Donc peut-être qu'une partie de la réponse à votre question, c'est éducation nationale as a platform. Est-ce que nous pouvons nous penser comme une infrastructure pour les innovateurs, une vraie ressource technologique, en data, en moyen d'agir et de se déployer, etc. Et puis ensuite laisser la créativité extérieure organiser le passage à l'échelle.
Merci.
Voilà.
Je crois que... il va être temps de clore.